On a un quart d'heure de retard, mais bon, ça ne nous dérange pas trop. Si on avait dû donner un thème en regardant les thèmes des conférences, excepté la conférence d'Éric Sartori, on aurait pu intituler cette journée « L'image et la science », les images de science. Je suis ravie de revoir de nouveau notre ami Laurent Pinon, qui va nous parler d'histoire des sciences et du patrimoine imprimé. Donc Laurent est déjà venu ici dans le cadre d'une journée d'études sur les cabinets de curiosité et le livre. Donc Laurent Pinon est maître de conférence à l'ENS Paris, normalien, maîtrise de sciences naturelles, agrégé d'histoire, docteur en histoire. Et ses spécialités, qui sont rares en histoire des sciences, parce qu'il y a très peu de gens qui travaillent en effet sur les images. Donc je suis contente d'avoir aujourd'hui deux personnes qui travaillent particulièrement sur cette thématique-là. L'histoire des sciences à la période moderne, histoire du livre, publication et images scientifiques. Donc les principales publications de Laurent sont Livre de zoologie de la Renaissance, une anthologie que vous pouvez regarder, vous pourrez voir, c'est à votre disposition. Et je vois aussi dans la bibliographie qu'il y a une bibliographie des livres scientifiques imprimés à Rome 1527-1720, qui est une base de données en ligne en cours d'enrichissement et hébergée par le CNRS. De toute façon, vous trouvez tous les renseignements sur les conférenciers et les bibliographies sur les sites internet. Pas faire de la pub pour Google, mais en faisant Google, faisant leur nom, vous trouvez tout. Donc je laisse la parole à Laurent, que je suis absolument ravie encore d'écouter, parce que c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, très, tout en finesse, et qui est aussi intéressant pour vous, les professeurs de sciences et les professeurs aussi de disciplines scientifiques. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas dans la salle de littéraire et qu'il n'y ait pas de professeurs d'histoire et les autres disciplines, malheureusement, qui ne sont pas, qui font pas partie du stage parce que tel est le concept. Et voilà, c'est... Mais enfin, je passe la parole à Laurent Pinon, que je remercie encore beaucoup.
Merci beaucoup après cette présentation un peu gênante, parce que j'ai l'impression qu'on ne veut plus que décevoir maintenant.
Absolument pas.
Alors, derrière ce titre, Histoire des sciences et patrimoine imprimé, je me proposais de discuter de l'importance du livre imprimé dans l'histoire des sciences, et en soulignant tout simplement que cette importance tient son origine de l'importance de l'imprimé en sciences, déjà, hein, puisque publier dans la pratique scientifique, c'est rendre public les résultats de ses découvertes, c'est poser les jalons d'une antériorité par rapport à d'autres scientifiques, et du coup la centralité de l'imprimé dans la pratique scientifique explique l'importance qu'il peut avoir, après coup, dans les questionnements d'histoire des sciences. Alors, pour l'historien des sciences, l'imprimé est déjà un moyen d'accéder au contenu scientifique. Travailler sur les imprimés, c'est travailler sur les énoncés scientifiques dans leur contexte d'époque. Mais je voudrais aussi montrer, ça va un peu de soi, je voudrais aller un peu au-delà et vous montrer aussi, et là je parle en tant qu'historien, comment on peut aussi utiliser ces imprimés pour contextualiser les pratiques scientifiques, pour les replacer dans leur cadre historique. Donc je vais plutôt m'attacher, peut-être en vous déconcertant un petit peu, je vais vous montrer que des livres scientifiques, on peut regarder ce qu'il y a dedans, on peut aussi regarder les reliures, on peut aussi regarder les frontispices, et j'essaierai de vous montrer comment, à partir de ces éléments, de ce qu'on appelle parfois le paratexte, ce qui est autour du texte strictement parlé, on peut avoir des éléments très importants pour historiciser la pratique de la science dans son contexte d'époque. Donc, d'autre part, je voudrais souligner l'importance d'une réflexion sur le patrimoine imprimé dans l'histoire des sciences, parce que c'est aussi un patrimoine qui devient de plus en plus accessible. On a toujours accès aux bibliothèques, on peut accéder aux livres anciens de la période moderne, on peut accéder aux périodiques. Et avec les énormes programmes de numérisation qui sont en cours, c'est vrai que ce sont des ressources qui sont de plus en plus accessibles, de plus en plus ouvertes, et je pense de plus en plus susceptibles d'être utilisé par des gens comme vous dans le cadre de votre pratique professionnelle. Alors, je suis spécialiste de la période moderne, ce que les historiens appellent la période moderne, c'est-à-dire 16e, 18e siècle, après ces périodes contemporaines. Et donc, je vais parler surtout d'elle, mais j'aurai aussi la possibilité d'ouvrir quelques remarques qui seraient pertinentes pour des périodes plus récentes. Donc, ce que je voudrais, c'est vous montrer quelques exemples d'enquêtes précises sur du patrimoine imprimé et essayer de vous montrer ce que ça peut apporter à la compréhension de l'histoire des sciences. Donc c'est aussi une façon de vous donner un aperçu de ce que peut être, vous en avez vu d'autres et vous en verrez d'autres, de ce que peut être un travail d'enquête d'historien des sciences. Et je voudrais aussi discuter des limites d'un travail sur les imprimés aussi, essayer de discuter ce qu'on ne voit pas en travaillant sur des matériaux publiés. Alors, peut-être pour commencer rapidement, je voudrais rappeler le contexte de l'invention de l'imprimerie et dire en gros tout de suite séparer un peu deux périodes. D'ailleurs, dans l'imprimerie elle-même, on distingue ce qu'on appelle l'ancien régime typographique, c'est-à-dire les techniques d'imprimerie qui fonctionnent du 15e au 18e siècle. Ici, vous avez une représentation tirée de l'encyclopédie, mais le système de la presse que vous voyez là est tout à fait comparable à ce qu'on avait au 15e siècle. Donc il y a un système de fabrication du livre de la période moderne. Et puis, après, début 19e, presse à vapeur, papier en rouleau, on ouvre sur des techniques de fabrication très, très différentes. Et puis, autre remarque préliminaire, pour la période moderne, l'imprimé scientifique est un livre. Je suis là avant la période de l'invention de l'article scientifique, et donc à une période où la publication se fait sous forme de livre. Les premiers articles apparaissent à la fin du 17e, et il faut un long processus, et c'est vraiment, on pourrait dire, à partir du 19e, que la forme dominante et normale de publication scientifique est l'article que vous connaissez aujourd'hui. Alors, ces presses, ce fonctionnement des presses, simplement pour rappeler, donc là, vous avez un atelier de composition, où vous voyez des ouvriers en train d'assembler les caractères en plomb, et là, vous voyez la presse fonctionnait notamment cette partie ici où vous voyez deux ouvriers en train d'installer une feuille de papier sur le dispositif de la presse. Les caractères sont là sur cette table, un compagnon est en train de mettre de l'encre dessus, et puis après on va rabattre ce battant sur la feuille de papier qui va elle-même être rabattue sur les caractères ancrés, et on va l'engager dans la presse. C'est l'étape que vous voyez ici. Et la presse elle-même, c'est une vis ici actionnée par un barreau qui comprime la feuille de papier sur les caractères ancrés. Donc, pourquoi ce rappel ? Pour comprendre que ce processus de fabrication a toute une série d'implications sur la possibilité ou non de faire un livre. Alors, il y a des implications en termes de coût. Et le coût dominant dans la fabrication d'un livre à l'époque moderne, c'est le papier. Le papier coûte très cher. En général, les tirages sont de l'ordre du millier d'exemplaires. Et donc, ça veut dire qu'on doit acheter 1000 feuilles de papier pour chaque bloc de page du livre, pour chaque cahier du futur livre. Et ça requiert un énorme investissement financier qui ne sera recouvert que lorsque presque tout le tirage aura été vendu. Donc, c'est une activité souvent périlleuse, l'impression d'un livre. Et donc, on n'imprime pas n'importe quoi. Et on n'imprime pas des livres pour lesquels il n'y aurait pas un marché. Donc c'est vrai quand on trouve un livre scientifique du 16e, du 17e ou du 18e siècle, ça veut dire qu'il y a eu un libraire qui a pensé qu'il y avait un marché pour ce livre, et ça veut dire qu'a priori, il y a eu des gens pour l'avoir acheté. Donc c'est un aspect important. Et puis d'autre part, il y a des choix techniques qui sont liés et qui engagent des coûts aussi. Par exemple, les choix d'illustration. On peut utiliser des matrices en bois gravé pour les images, qui sont un bois en relief, un bois que vous creusez et dans lequel vous laissez juste en relief les parties qui doivent apparaître en noir sur votre image. Donc ça a l'avantage de pouvoir, vous pouvez assortir ce bois à l'intérieur de vos caractères en plomb et donc avoir des images parfaitement inscrites dans les pages des livres. Il y a une autre technique plus luxueuse, plus fine, qui est la gravure sur cuivre, où c'est le contraire, on a une plaque de cuivre, on la creuse, on met une encre différente et seules les parties creusées de la plaque de cuivre vont garder l'encre qui est plus hydrophobe et qui après se transférera sur la feuille de papier. Donc technique complètement, complètement différente et qui n'est pas compatible avec les caractères en plomb. Donc ça va supposer par exemple qu'on imprime les images séparément des textes et qu'après on essaye tant bien que mal de les réinsérer dans le livre. Voilà par exemple un exemple tout simple. Le simple choix d'un support iconographique va entraîner une structure différente des livres et des conditions de lecture différentes. Et enfin, dernier point, le livre coûte très cher et il arrive souvent que son financement soit assuré par le système du mécénat. Donc vous êtes un scientifique au XVIIe siècle, vous voulez publier un livre, la première chose à faire, ça va être de trouver un prince, un cardinal ou tout autre mécène qui vous aidera à engager les coûts de cette édition et qui partagera le risque financier avec vous, ou qui même en paiera la totalité sous forme d'une gratification. Et en échange, la contrepartie, c'est que vous pourrez lui dédier le livre. Vous inscrirez son nom sur la page de titre et vous rédigerez un magnifique poème liminaire en l'honneur de ce prince féru d'art et de science qui, sans qui le travail n'aurait pas été effectué. Et il y a une sorte de marché social entre ces auteurs, ces savants qui veulent publier, et des princes, des mécènes qui associent leur nom à ces travaux. C'est, pour mémoire, l'historique de l'Académie royale des sciences à Paris, c'est exactement cette logique-là. On n'est pas dans une logique de publication, mais c'est au départ une initiative privée. Le roi stipend d'un certain nombre de savants qui travaillent pour sa propre gloire. Donc il y a une sorte de donnant-donnant. Et le livre est important parce que finalement, pour un savant, imprimer un livre, c'est avoir la certitude d'être immortel. C'est avoir la certitude que ses travaux ne pourront pas se perdre. Et donc il y a une immortalité acquise par la publication que le savant peut partager avec le mécène qui l'aide à financer. Et on voit très bien ces jeux sur... Quand on regarde les pages de titre, on voit souvent un parallèle entre le nom de l'auteur et le nom du dédicataire. Donc il y a une sorte de jeu rhétorique où tous les deux partagent la gloire de l'œuvre scientifique portée par le livre. Alors après cette introduction, je voudrais vous donner quelques exemples d'enquêtes. Et là, pour le coup, je me permets de rentrer dans des enquêtes très, très concrètes pour essayer de montrer ce qu'on peut voir à travers ces livres scientifiques. Alors un premier exemple, vous reconnaissez peut-être Copernic sur cette image. Je voudrais parler du grand livre de Copernic, le De Revolutionibus, son traité sur les révolutions des orbes célestes, qui est publié en 1543. Donc c'est l'œuvre majeure de Copernic, vous le savez. C'est l'œuvre qui publie... Enfin, il y a eu une pré-publication, pardon, mais c'est vraiment la publication du système du monde centré autour du Soleil, par opposition au système géocentré qui était le système traditionnel issu de l'Antiquité. Et ce livre présente tout un grand nombre de caractères intéressants. D'abord, par exemple, sa dédicace. Il est dédicacé au pape. On imagine le traité de Copernic, on imagine... conflits religieux, etc. Pas du tout. Copernic lui-même est un chanoine, c'est un religieux, et il dédie son livre au pape Paul III en y voyant un instrument pour la réforme du calendrier, qui est un grand enjeu intellectuel à ce moment-là à Rome, et qui concerne au premier chef la papauté par l'organisation et la prédiction des fêtes, des dates des fêtes religieuses. Donc premier point. Deuxième point important dans ce paratexte, c'est, vous avez peut-être entendu parler de la préface du livre, qui a été rédigé par un pasteur protestant qui s'appelle Osiander et qui a pris l'initiative, indépendamment de Copernic, de rédiger une préface qui explique que le livre ne présente que des hypothèses mathématiques. Vous connaissez sans doute cette idée que le livre de Copernic a été acceptable parce que son contenu était présenté comme des simples hypothèses mathématiques, donc quelque chose d'un peu virtuel qui ne présentait pas forcément... qui ne prétendait pas forcément restituer la réalité du monde. En fait, cette idée-là est liée à la préface de ce pasteur protestant. Donc là aussi, vous voyez, on a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Un livre dédié au pape, un pasteur protestant qui fait la préface et qui dévie finalement la réception du livre en introduisant cette idée qu'il s'agit de simples hypothèses mathématiques. Or, si on regarde le livre d'un peu plus près, on voit bien que pour Copernic, il ne s'agit pas du tout d'hypothèses. Il s'agit... Il considère, lui, que son mécanisme astronomique décrit bien une réalité du monde et non pas un système de calcul qui permet de calculer mathématiquement la position des astres. Donc là, on a un effet très intéressant où, par l'opération éditoriale, le sens de l'ouvrage se trouve déplacé par l'intervention, peut-être opportune, de ce pasteur protestant qui décale un petit peu le sens de l'œuvre et donc sa réception. Autre point intéressant qui a donné lieu à une énorme enquête d'un astronome qui s'est fait historien des sciences. Il y a la question de la lecture du livre de Copernic. Le livre de Copernic, si on le regarde, je regrette, je n'ai pas pu vous en apporter quelques images, mais il est d'une lecture extrêmement technique. Le livre 1 est à peu près lisible et les 5 autres sont extrêmement ardus. C'est des constructions mathématiques extrêmement complexes. C'est-à-dire que le système du monde de Copernic semble plus simple que le système classique, mais il reste encore assez compliqué. On a encore besoin d'épicycles, de toute une série de petits artifices de calcul pour faire correspondre les trajectoires d'étoiles, des planètes, avec un modèle mathématique. Et de fait, le livre de Copernic est énorme, écrit en latin, bourré de calculs et de schémas géométriques, et d'une lecture extrêmement difficile, au point que certains ont pensé qu'il n'avait quasiment pas été lu. C'est notamment la thèse d'Arthur Koestler dans un très beau roman que je vous recommande si vous vous intéressez, qui s'appelle Les Somnambules. C'est un roman un peu ancien maintenant, de 1959, qui retrace un peu l'histoire de ces premiers astronomes de la période moderne, donc Copernic, Galilée, Kepler. Donc Les Somnambules d'Arthur Koestler soutenaient cette idée que les théories de Galilée ont eu beaucoup d'impact, alors que Copernic, sur lequel il s'appuie lui-même, est resté beaucoup plus diffus. Et donc il faisait l'hypothèse que le livre était finalement trop ardu pour avoir été sérieusement lu. Et donc un historien des sciences, qui s'appelle Owen Gingerich, à la fin des années 50, a lancé une grande enquête pour essayer de retrouver tous les exemplaires des deux premières éditions du livre de Copernic. Et il les a toutes, donc il en a trouvé 600 copies à travers le monde. Il était cherché jusqu'aux exemplaires chinois, donc il a écumé les bibliothèques, écrit pour se renseigner sur ces exemplaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a pu reconstituer la réception du livre d'après les traces qui ont été laissées dessus. Et on a pu voir l'importance, donc on a pu nuancer un peu l'idée que... Donc il a écrit... D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez trouver, sa grosse enquête vient d'être traduite en français sous le titre « Le livre que nul n'avait lu, à la poursuite du De Revolutionibus de Copernic ». Alors, c'est le titre un peu provocateur, puisque justement, il est amené à nuancer cette thèse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu reconstituer la réception de Copernic à travers les annotations qui ont été faites sur son livre par les astronomes qui lui ont succédé. Et on a pu, comme ça, reconstituer historiquement des lectures techniques de l'œuvre. Et ce qui est même ce qui était inattendu et extrêmement intéressant, c'est qu'on a retrouvé une filiation des citations, c'est-à-dire que vous aviez des astronomes à la fin du XVIe siècle qui s'échangeaient leur Copernic pour recopier les annotations des uns et des autres. Et on a même des cas où des annotations faites par des astronomes un peu plus connus ont eu finalement toute une circulation par le biais de la recopie manuscrite sur les marges des exemplaires du livre de Copernic. Et donc vous voyez comment... Par cet exemple, au-delà du livre qu'on considère comme une œuvre abstraite, comme une simple édition, à travers une enquête sur les exemplaires, on peut avoir historiquement une compréhension infiniment plus fine de la réception de l'œuvre, de son statut, de la manière dont elle a été comprise, écrite et travaillée. Donc voilà, c'était le premier exemple sur lequel... je voulais m'appuyer. Et là, vous voyez, on retrouve la notion de patrimoine imprimé, c'est-à-dire que on n'est pas à l'échelle du livre singulier. Si vous prenez un livre, vous ne comprenez pas tout. Si vous prenez l'ensemble des exemplaires conservés de ce livre, vous pouvez à ce moment-là reconstituer des trajectoires intellectuelles, des modes d'échange, des filiations d'idées, et vous pouvez reconstituer la réception scientifique d'une œuvre d'importance majeure. Alors maintenant, je voudrais vous... je me permets de vous donner des exemples d'enquêtes sur lesquelles je travaille moi-même et d'autres qui vous donneront d'autres aperçus de ce qu'on peut faire à partir du livre imprimé scientifique comme objet d'étude. Et je voudrais vous parler d'une enquête que citait Anne Bonnefoy tout à l'heure sur les livres scientifiques imprimés à Rome. Donc là... Il s'agit d'un travail qui est engagé depuis quelques années et là qui arrive à peu près à terme. Il y avait ce projet d'essayer d'inventorier tous les livres scientifiques et techniques qui ont été imprimés à Rome sur deux siècles, entre 1527 et 1720. donc une période de 2 siècles qui recouvre, vous le voyez, la période de Galilée, notamment le procès de Galilée, 1633, vous voyez, on est au cœur de cette période-là. Et l'enjeu, c'était de comprendre, de reconstituer un peu, à travers ces livres imprimés, un panorama de la culture scientifique romaine, et d'essayer de comprendre, par ce nouveau prisme, d'avoir d'autres éléments sur les rapports entre science et Église catholique à l'époque moderne et à l'époque du procès de Galilée. Donc, l'idée, c'était donc là de prendre une base chronologique assez large. Il fallait, bon, il y a des tas de problèmes méthodologiques, par exemple, définir la science sur une époque de 2 siècles, très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, il ne faut pas être anachronique. Il ne faut pas avoir peur de mettre l'astrologie, la magie, l'alchimie, même si, en fait, alchimie et magie, à Rome, il n'y en a pas tellement. Mais intellectuellement, ce serait parfaitement cohérent de les mettre. Et puis, ça valait le coup d'embrasser assez large pour ne pas établir des distinctions qualitatives qui seraient largement anachroniques. Hein, d'ailleurs, dès qu'on veut parler de science en reculant dans le temps, on a quelque chose qui est très différent de ce qu'on appelle science aujourd'hui. Mais même à la limite, si on essaie de définir la physique entre le début et la fin du XXe siècle, on pourrait dire que la physique avant 14 n'est pas de la science, par exemple. Ce serait très facile de dire ça. Ou que la physique n'est pas de la physique, enfin, on pourrait... Mais c'est très important d'avoir ce questionnement sur les catégories qu'on utilise. Et puis, donc c'est une enquête qui décrit des éditions. C'est-à-dire, j'entends par une édition, c'est un ensemble de livres qui ont été imprimés, de livres identiques ou quasiment identiques, qui ont été imprimés en même temps sur la presse. Hein, mais il peut y avoir, ça pose encore des tas de problèmes méthodologiques. Vous pouvez avoir des variantes d'exemplaires à l'intérieur d'une édition. Vous avez des cas aussi où, par exemple, une édition peut être remise sur le marché avec une page de titre refaite. Donc on a une vieille édition qui s'est mal vendue, et puis on change la page de titre, on rajoute une page de titre à la date de l'année en cours, et avec marqué « Nouvelle édition revue par l'auteur », et hop, on la remet sur le marché. Donc ça trompe. Donc ça fait croire... Ça fait croire aux acheteurs de l'époque que le livre est tout neuf, et puis ça fait croire aux historiens que le livre a eu tellement de succès qu'il a été édité 2 fois, alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. Donc là, on est obligé, hein, c'est important de regarder d'un peu près. Là aussi, c'est un autre biais par lequel on peut un peu mieux comprendre la réception d'une œuvre. Et alors, donc on arrive à un corpus de presque 1300 éditions à Rome sur 2 siècles, ce qui est déjà beaucoup plus important que ce à quoi on pourrait s'attendre, parce que vous prenez... un livre d'histoire des sciences standard, vous regardez Rome, c'est un peu le cul de basse-fosse de l'histoire des sciences. Vous avez vraiment l'impression que c'est un environnement hostile où il ne se passe rien, à part des condamnations de scientifiques importants. Et quand on regarde un peu ce qui a été effectivement imprimé dans la ville, on arrive à une image assez différente. Alors voilà un peu la nature des fiches de cette bibliographie qui sont consultables en ligne. Donc c'est un instrument qui peut servir aussi à des spécialistes de Rome ou à des spécialistes du livre scientifique. Et voilà le type d'analyse qu'on peut faire. Par exemple, première analyse sur les sujets des ouvrages. Vous voyez, on a une grosse importance de la médecine qui ne surprend pas trop à Rome, puisque c'est la ville des papes. Les papes sont âgés, ils arrivent avec leurs médecins. Il y a les cardinaux, c'est un peu pareil, ils sont à peine moins âgés. Donc il y a toute une série, il y a les médecins pontificaux, il y a l'université de médecine de Rome. Et puis, il y a le collège des médecins de la ville. Donc, vous avez toute une série d'institutions qui expliquent qu'il y ait une dynamique professionnelle propre à la médecine. Et puis, vous voyez arriver derrière mathématiques et philosophie, qui sont les deux grandes facultés universitaires scientifiques. Hein, philosophie, physique, j'ai pas voulu séparer, parce qu'à l'époque, ce serait vraiment un même groupe avec toute la philosophie aristotélicienne et dans tous ces développements. Et puis, alors... ici, c'est assez classique, en fait. Vous prendriez une autre ville, vous auriez quand même quelque chose d'assez proche. Par contre, les spécificités romaines, les caractères spécifiques de Rome, qui étaient aussi une des choses qui m'intéressait, comment on peut voir des choses qui sont propres au contexte romain à travers une telle enquête. On les voit plus à l'intérieur de ces champs. Par exemple, dans la médecine, vous avez beaucoup de livres sur la salubrité ou la santé publique. Ça correspond à une ville qui est en pleine expansion, où on se pose des questions sur les régimes alimentaires, alors aussi en liaison avec les prescriptions religieuses, donc sur la qualité de l'air aussi. Donc ça forme tout un bloc. Vous avez un autre bloc dans les livres plus techniques sur les inondations du Tibre. Là, on a un fleuve à régime méditerranéen, très irrégulier, qui pose d'énormes problèmes d'inondation. Pareil, série importante de traités techniques qui répondent à la question. Et puis Rome, par exemple, je pense que c'est la seule ville au monde où on trouve 6 traités sur le transport d'obélisques au XVIe et XVIIe siècle. Ça correspond à la reconfiguration du paysage urbain de la ville, au moment où on redresse les obélisques romains, on les déplace, on les met au centre des grands axes visuels du paysage urbain, et ça se traduit par une demande spécifique de traités techniques. Et puis on voit aussi l'importance de l'architecture, tout à fait cohérente avec ce contexte historique, et fortement liée d'ailleurs à l'analyse des constructions antiques. Donc il y a une sorte de liaison entre, enfin, qui est tout à fait typique de la Renaissance et de la culture romaine, entre la reconstruction des ruines antiques, l'analyse des ruines antiques et l'innovation architecturale, notamment dans la Rome de la Renaissance ou de la période baroque. Alors on peut voir les langues aussi de ces ouvrages. Vous voyez, 2/3 de latin, 1/3 d'italien, et puis de façon marginale, du grec qui renvoie à la culture classique, l'espagnol qui est lié à... Il y a une sous-population espagnole à Rome, il y a des liaisons politiques assez fortes avec l'Espagne, et puis l'arabe qui est lié à des traités, en l'occurrence une édition d'Euclide et une édition d'un traité de géographie arabe, donc qui montre aussi une certaine sensibilité aux langues originelles de ces ouvrages. Alors là, on a encore une proportion qui est logique, mais vous voyez que ces ouvrages ne correspondent pas, ne représentent pas un corpus unique. Vous voyez, quand on va de l'architecture à la philosophie, en passant par les techniques, la médecine, on voit très bien qu'il va y avoir plusieurs lectorats. Et ça se voit si on regarde la répartition des mêmes langues à l'intérieur des champs. Vous voyez que la philosophie va être quasiment, physique-philosophie, ça va être quasiment exclusivement latin. Par contre, technique et architecture, vous voyez, c'est presque tout en italien. Donc on voit aussi que le corpus tel que je l'ai défini recouvre, et là c'est aussi, il faut un peu de prudence, et c'est pas un corpus homogène, c'est un corpus qui superpose sans doute des sous-corpus qui s'adressent à des lectorats différents. Alors on peut analyser aussi la concentration éditoriale en analysant quels sont les éditeurs de ces livres, et on voit qu'un certain nombre d'entre eux recouvrent une grande partie de ces opérations éditoriales. Et comme en plus on est sur 2 siècles, la plupart de ces officines sont actives que pendant quelques décennies. Ça veut dire qu'à un moment donné, chacun se taille une part du marché assez prépondérante. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas imprimer un livre scientifique à Rome chez n'importe qui, n'importe quand. Là, il y a aussi des choses qui sont tout à fait importantes à étudier, et on voit comment finalement ces auteurs sont aussi inscrits dans des réseaux de relations aussi avec des éditeurs plus ou moins spécialisés. Et le point qui est le plus intéressant pour l'interprétation historique, peut-être, c'est l'analyse des dédicataires, ceux à qui les livres sont dédiés. Et vous voyez là, 52% de ces ouvrages sont dédiés au pape ou à des cardinaux. Et parmi les autres, il y a encore un certain nombre d'évêques. Et puis après, vous trouvez des princes parmi lesquels il y aura beaucoup de neveux, de papes, de cardinaux. Donc on voit très bien ici, à travers ce jeu des dédicaces, à la fois la spécificité de cette ville de Rome, qui est une ville où il n'y a pas une seule cour comme Paris à l'époque de Louis XIV, mais il y a une multiplicité de cours qui sont les cours des grandes familles pontificales ou des grandes familles de cardinaux. Et puis l'Italie est très morcelée politiquement, il y a des princes un peu partout autour, des principautés indépendantes un peu partout autour de Rome, donc il y a vraiment une possibilité de jeu, il y a des multiplications des sources possibles de soutien de l'activité scientifique. Mais en tout cas, on voit bien là que on a là cette proportion des dédicaces, un indicateur très intéressant sur la relation entre Église catholique et culture scientifique. Et vous voyez, beaucoup plus complexe et nuancé que la seule perception du procès de Galilée ou de celui de Giordano Bruno peut laisser penser. Voilà, donc en conclusion de cette enquête, les traits marquants qu'on peut essayer d'avancer à partir d'une enquête de ce type, c'est d'abord de constater que Rome est un centre éditorial relativement important finalement pour le livre scientifique. Cette enquête place Rome à peu près au 10e rang européen, ce qui n'est pas fantastique, mais c'est pas rien non plus, donc c'est pas un trou en tout cas, du point de vue de la culture scientifique, ça, on peut le dire. Un autre point qui est intéressant, c'est que si on regarde le détail de ces livres, beaucoup d'entre eux sont des premières éditions, et beaucoup d'entre eux sont des livres édités par des gens qui sont présents à Rome au moment de la publication. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une édition de textes scientifiques qui viendraient d'Angleterre, de France ou d'ailleurs en Italie. Beaucoup d'entre eux sont le fruit de ce qui se fait localement à Rome. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça peut permettre... C'est un argument intéressant pour dire que l'ensemble de ce corpus de livres restitue plus ou moins ce qui se fait en sciences et en technique à Rome à ce moment-là. Donc il y a une adéquation assez grande entre ce qui est publié et les personnes présentes. On voit la forte présence de l'Antiquité que j'ai déjà évoquée, et puis on voit la question du soutien de l'Église qui apparaît très nettement et qui oblige à considérer les choses un petit peu différemment que la vision caricaturale de l'obscurantisme de l'Église catholique qui était vraiment très... pendant longtemps la vision dominante, c'est vraiment la vision 19e siècle, mais qui est encore très présente aujourd'hui dans les esprits. Et puis on peut nuancer un peu ce panorama quand même, en rappelant que tout n'est pas publié. Vous avez aussi des traités scientifiques ou techniques qui ne sont pas passés par l'imprimerie et donc qui n'entrent pas dans le champ de mon enquête, et qui souvent d'ailleurs ont pu se perdre et donc sont moins accessibles aux interrogations des historiens. Et puis, rappeler aussi que des scientifiques romains peuvent aussi parfois, quand ils veulent viser un marché plus international, ils peuvent aussi parfois aller publier à Venise, qui va être un centre marchand plus important. Donc tout n'est pas publié sur place. Donc il faut rester attentif sur les biais qu'on introduit avec ce type d'enquête. Mais enfin, j'espère vous avoir convaincu qu'on voit un certain nombre de choses à travers ce type de questionnement qui part de la logique du patrimoine imprimé pour essayer de comprendre, de reconstituer historiquement les pratiques scientifiques. Alors, je me propose d'évoquer un second exemple qui montre l'importance du livre à travers le cas de l'astronome danois Tycho Brahe. Alors, on revient à l'astronomie. Tycho Brahe, je vous rappelle, il s'inscrit entre Copernic et Galilée. Il est à la fin du XVIe siècle. Et c'est vraiment la grande figure astronomique entre Tycho Brahe et entre Copernic et Galilée. Lui, c'est un grand noble. Vous avez ce portrait-là qui n'est pas très net, mais où il est entouré de ses 16 quartiers de noblesse. Donc que du beau monde. C'est vraiment le premier entourage nobiliaire du roi du Danemark, Tycho Brahe. Et il acquiert une renommée scientifique pour avoir observé la Nova de 1572, donc une étoile nouvelle dont il donne une description, qui lui acquiert une certaine renommée et conduit le roi du Danemark, Frédéric II, à lui concéder la seigneurie du Nil, l'île de Ven, dans le détroit du Sund. Donc c'est une petite île, il y a 50 tenanciers, et Tycho Brahe se trouve seigneur féodal pour... Donc c'est une concession du roi pour y développer ses activités scientifiques. Et il y construit cet extraordinaire manoir, le manoir d'Uraniborg, donc la maison d'Uranie, qui est un manoir spectaculaire dont les toitures sont en fait des coupoles qui s'ouvrent pour recouvrir d'énormes instruments d'observation. On est dans les années 1580-90, c'est une observation exclusivement à l'œil nu, c'est avant la lunette. Mais donc, ces instruments, ce sont des très grands cadrans, par exemple, qui permettent de mesurer les hauteurs des astres dans le ciel. Et donc, un véritable manoir laboratoire avec des équipes d'étudiants qui travaillent en se relayant nuit et jour, parfois même des observations en parallèle dans les deux, sur des instruments différents pour pouvoir vérifier les données et éliminer les erreurs de mesure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Tycho Brahe a choisi de publier lui-même ses livres. Et alors ça donne lieu à des interprétations très divergentes parmi les historiens. Il y en a qui disent, il y en a qui ont fait de lui le modèle du scientifique qui maîtrise l'imprimerie et qui du coup va pouvoir accéder à contrôler la diffusion de ses œuvres. Et puis il y en a qui disent au contraire, en fait, si on regarde, ça ne marche pas du tout, il n'arrive pas à imprimer ses livres, c'est un énorme boulet pour lui, et donc même un très grand savant comme Tycho Brahe n'arrive pas à utiliser l'imprimerie, donc en fait l'imprimerie ça ne marche pas. Donc il y a vraiment une interprétation carrément caricaturalement opposée de ce cas particulier, pourtant assez connu, de Tycho Brahe. Et en fait, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'essayer de faire un bilan des raisons pour lesquelles il a édité lui-même ses livres et des succès, des échecs qu'il a ainsi encourus. Et alors, si on voit sa correspondance, il explique lui-même que les spécificités techniques de ses ouvrages, notamment des ouvrages qui comportent des figures, des symboles, des tableaux chiffrés, demandent un contrôle particulier et que c'est pour pouvoir contrôler lui-même la mise en forme de ses livres qu'il a choisi d'installer un atelier sur son île. Et puis il explique un peu plus loin d'ailleurs que donc il y a peu de relecteurs qui soient capables de lire des épreuves de livres techniques comme les siens, et en plus il y a un élément tout bête, c'est qu'il est sur une île, il n'est pas à Copenhague, et avec la presse telle qu'elle fonctionne, hein, je vous ai montré comment on installe les caractères sur la presse, et ça veut dire que le matin vous mettez les caractères et après vous imprimez les 1000 ou 1500 tirages de votre feuille, puis après vous imprimez l'autre côté, puis après les caractères sont décomposés et vous recomposez, pendant ce temps-là vous avez recomposé la feuille suivante qui est imprimée à son tour en 1000-1500 exemplaires. Donc il n'est pas question, avec ce système de fabrication, on ne peut pas faire un jeu d'épreuves comme aujourd'hui qu'on envoie à l'auteur, qui les relie, les corrige et on lance le tirage. Là, soit vous êtes là le matin au moment où on a fini d'installer les caractères sur la presse pour vérifier que ça va ou que ça ne va pas, soit vous n'avez pas de contrôle sur la mise en forme du livre. D'où, hein, c'est ce à quoi il fait référence quand il dit « examiner par moi-même afin d'être publié sans erreur ». Et donc là, étant sur une île, il est un petit peu contraint par, s'il veut contrôler un tant soit peu ses tirages, de le faire lui-même. Et alors il installe, vous retrouvez ici au milieu le manoir que je vous montrais tout à l'heure, hein, donc un spectaculaire parc, et il installe ses presses dans un petit pavillon angulaire de sa propriété. Et il s'agit effectivement d'une impression assez complexe. Hein. Voici une page typique de livre de Tycho Brahe, en latin évidemment, avec donc des graphiques insérés dans le texte. Là, c'est parce qu'il utilise des gravures sur bois, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis voilà le type de choses qui n'est pas exactement ce qu'on rêve de relire si on est correcteur d'épreuves. Hein, vous voyez que c'est une impression particulièrement difficile simplement à cause de la présence de ces données chiffrées. Alors, le problème, c'est que donc il installe ses presses et rupture de papier. Et donc, il écrit à ses correspondants, voilà, mon livre serait déjà fini si seulement je pouvais avoir du papier, etc. Donc, il y a des problèmes de blocus, il y a des périodes où la mer n'est pas navigable. Donc, il est bloqué par le papier. Donc, il est vraiment gêné parce qu'il a un projet de gros livre en 3 tomes sur les phénomènes célestes récents, qui serait que les préludes à un énorme théâtre astronomique. Donc, il a vraiment une ambition éditoriale très, très vaste. Et de ces 3 tomes sur les phénomènes récents, il a déjà imprimé le second. Il attend pour le diffuser d'avoir le premier. Et donc, le second est imprimé en 88. Et le premier, il pense être en mesure d'imprimer le tome 1 en quelques mois. Et puis, en fait, ça passe. Et à chaque fois, il y a des nouveaux problèmes qui arrivent. Donc, de fait, il y a bien des raisons de dire qu'il rencontre des difficultés. Alors d'abord, il a des problèmes de papier et il finit par décider de construire un moulin à papier sur son île. Alors là, c'est pas du tout une affaire légère. Hein, voilà ici le plan de l'île. Vous retrouvez le manoir ici et il construit un moulin à papier là. Il n'y a aucun cours d'eau sur son île, donc il alimente ce moulin à papier par tout un réseau d'étangs à poissons en série. Donc il transforme son île désertique en réseau d'étangs pour alimenter la roue de son moulin à papier. Et alors là, il triomphant, il écrit, ça y est, mon moulin tourne, maintenant les publications, la cadence des publications va tourner à plein régime, et pas de chance, impossible de trouver un papetier. Alors, bon, construire un moulin à papier, c'est pas une chose évidente, son moulin est l'unique moulin à papier de tout le Danemark. Et le deuxième historiquement, c'est-à-dire il y en a eu un auparavant à Copenhague, et quand le sien est construit, c'est le deuxième de toute l'histoire du Danemark et l'unique à être en activité à ce moment-là. Donc on conçoit que les papetiers courent pas les rues. Et puis on conçoit aussi que autant un étudiant scientifique brillant et motivé puisse avoir envie de s'enfermer pendant les 9 mois d'hiver dans cette île avec un très grand savant comme Tycho Brahe, autant un papetier aura peut-être pas la même motivation. Et donc toujours est-il qu'il a des papetiers qui s'enfuient, le moulin reste 3 ans bloqué sans papetier, donc c'est une vraie catastrophe. Et puis je pense aussi, enfin, ça il ne le dit pas, mais je pense qu'une fois qu'il a construit son moulin à prix d'or, il ne supporte plus l'idée d'acheter du papier pour terminer ses éditions, donc du coup il attend que son moulin marche, et il se trouve encore plus bloqué. Et là, il y a aussi des choses assez amusantes. Quand on regarde vraiment le détail de ces livres, on retrouve les filigranes du papier. Vous savez, ces empreintes qu'il y a aussi sur les billets de banque. Et donc, il a fait faire un magnifique filigrane, gros comme ça, avec son manoir, etc. Donc, il voyait visiblement aussi dans son papier, propre papier, un instrument de prestige. Sauf que le papier, son propre papier est exécrable. Alors, donc, les papiers filigranés aux armes de Tycho Brahe ou avec son manoir sont en général les feuilles les plus moches, avec d'énormes grumeaux. Ou des plages blanches parce que la pâte a été mal disposée. Donc vous voyez, la politique de prestige ne marche pas parfaitement ici. Et puis, le parcours chaotique de la biographie de Tycho Brahe se durcit dans la mesure où il est aux prises avec une quasi-révolte antiseigneuriale de ses tenanciers qu'il a dû exploiter au maximum, et sans doute un peu trop. Il est en conflit avec le nouveau roi du Danemark et il se trouve obligé de quitter son île. Donc abandonner tout son manoir, etc. Donc il abandonne, il est obligé d'abandonner les instruments maçonnés, mais il déménage, il emporte ses presses, etc. Mais il a plus de, il est obligé de se trouver un autre protecteur. Et c'est là où, de façon très intéressante, il publie ce livre, qui est un de ses livres les plus connus, qui s'appelle Les Mechanica, qui est un traité sur ses instruments. C'est d'ailleurs le livre dans lequel vous trouvez toutes les vues du laboratoire. C'est les vues du manoir, de l'île, de ses installations, mais il y a aussi des vues d'instruments qui sont très importantes dans les Mechanica, qui est une sorte d'ouvrage de promotion de la qualité de ses recherches scientifiques, qui est tiré sans doute à une centaine d'exemplaires uniquement, contre 1500 pour les ouvrages qu'il tente de pour le traité précédent, dont le tome 1 est toujours bloqué, et un ouvrage qui n'a pas été vendu, qui a été simplement distribué à des princes, des évêques, donc un peu dans toutes les principautés allemandes, il essaye de s'acquérir des soutiens, des protecteurs, pour retourner l'opinion défavorable du roi du Danemark à son égard, et il essaye, et il réussit, à obtenir le patronage de l'empereur Rodolphe II. Et donc, Tycho Brahe poursuit sa carrière à Prague. Et là, on voit très bien que c'est la publication de ce livre de prestige, hein, tous les exemplaires sont signés à la main. Il fait des magnifiques reliures. Alors, il n'est pas très modeste, il met son portrait doré à l'or fin sur des reliures en velours, avec ses devises, etc. Donc, il en fait des objets de prestige qui sont dignes d'un don princier. Et il obtient le patronage de l'empereur Rodolphe II, qui le recrute comme astronome impérial. Et donc là, on voit très bien que c'est la maîtrise ici de l'imprimerie qui lui permet une négociation sociale qui le sort du mauvais pas dans lequel il se trouvait bloqué. Et autre point important, ce livre est publié très rapidement et en fait il utilise les matériaux qu'il avait déjà. C'est-à-dire que c'est les images qui sont dedans, les images d'instruments, il les avait préparées déjà longtemps à l'avance pour les traités scientifiques qu'il avait programmés, mais là il est capable, comme il a déjà les matrices des images toutes prêtes, il a déjà ces matériaux-là, et ça constitue l'essentiel de la matière du livre. En fait, vous voyez, il peut jouer en souplesse grâce à la maîtrise de ses presses et des matériaux techniques et des matériaux d'imprimerie qu'il a déjà réunis. Et enfin, je voudrais montrer que si on regarde les exemplaires conservés de son livre, donc voici ici le fameux tome premier, qui n'est finalement imprimé qu'en 1602, donc l'année d'après la mort de Tycho Brahe, donc il est posthume, il est terminé à Prague. Hein, la phrase latine dit « commencer à imprimer à Uraniborg au Danemark et achever à Prague en Bohême ». Et là, on peut regarder la structure du livre. Alors là, je rentre dans un aspect un petit peu plus technique, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais simplement la curieuse formule que vous avez là, c'est la récapitulation de la structure matérielle du livre, c'est-à-dire du nombre des cahiers. Hein, c'est un livre au format dit in quarto, c'est un format moyen, c'est-à-dire que chaque feuille de papier a été pliée deux fois. La feuille d'origine, vous la pliez deux fois et donc vous obtenez des cahiers de 4 pages, ce qu'indiquent les petits 4 en exposant, qui sont la structure la plus régulière. Mais par contre, vous voyez qu'il y a des endroits où on trouve inscrits des cahiers de 8, deux cahiers de 8, un cahier de 10, et puis ici, de nouveau, deux cahiers de 8. Et puis là, vous voyez, on avait une très longue série. En tout, il y a 5 alphabets. Hein, ça va jusqu'à 2. C'est A, B, C, D, E. Donc, c'est des alphabets de 23 lettres. Mais il y en a 5. Donc, ça vous donne aussi un aperçu de la taille du livre. Et vous voyez qu'il y a des irrégularités. Ça veut dire que c'est des endroits où l'impression a été discontinue. Et alors là, vous voyez, à partir de cette formule très technique de description bibliographique, on peut voir quels sont les points qui ont posé problème au moment de l'impression. Et si on regarde ces endroits-là, on voit ce que j'appellerais des points chauds scientifiques, c'est-à-dire des points où, en fait, il a suspendu l'impression parce qu'il n'était pas encore satisfait des contenus scientifiques. Et dans le premier cas, ces cahiers PQR, c'est sa théorie de la Lune qui ne fonctionnait pas très bien. Et dans ces cahiers ici, 2K et 2L, c'est le catalogue des étoiles qu'il essayait de dresser, donc il essayait de reconstituer un catalogue des positions d'étoiles. Et il voulait atteindre le millier d'étoiles, et là, il n'en est qu'à 700. Et donc, il a attendu, il a laissé un trou dans sa pagination, et il s'est dit, j'imprimerai ces feuilles-là plus tard. Donc là, c'est aussi une chose qu'il peut faire, parce qu'il imprime lui-même. Ce serait plus compliqué de faire ça chez un imprimeur. Et en fait, pourquoi on n'a pas des cahiers de 4? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus de choses à mettre dans les trous. Donc, il a été obligé de dédoubler. Il a dédoublé les pages correspondantes. Et c'est pour ça que la formule de pagination est complètement aberrante. Vous voyez ici, il a rajouté un bloc de 28 pages qui correspond aux pages supplémentaires qui n'étaient pas prévues par rapport à la pagination qui était déjà imprimée pour les cahiers suivants. Et alors, donc là, ça a dû être un véritable cauchemar, hein, d'éditer tout ça. Mais simplement, en voyant les irrégularités du livre, on peut reconstituer, et ça arrive très souvent, et on reconstitue les passages qui vont être intéressants. Hein, mais ça marche aussi bien pour un livre littéraire. Vous prenez un livre de Diderot, vous voyez des choses comme ça, vous dites, tiens, là, il y a eu un problème, tiens, là, il a rechangé, tiens, là, et vous découvrez un problème de censure, un problème de changement de contenu, et c'est souvent ces choses qui vous intéressent en tant qu'historien. Et au final, on peut réinterpréter à la lumière de ces enjeux-là les difficultés, les lenteurs éditoriales du programme d'impression de Tycho Brahe sont aussi liées finalement à son propre perfectionnisme scientifique. Et c'est pas uniquement des problèmes d'impression qui bloquent les choses, c'est aussi parce qu'il n'est pas satisfait de ses résultats, il veut faire mieux, il veut faire quelque chose de définitif. Il est un peu pris au piège de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'il accorde beaucoup d'importance à ses livres imprimés et du coup il a un degré d'exigence qualitative qui fait qu'il n'arrive jamais à les achever et à mettre la dernière main, il trouve toujours quelque chose à remanier. Et en même temps, il ne faut pas non plus rester sur une vision, il faut aussi voir tous les avantages qu'il a en imprimant lui-même ses livres. Voici la fin du livre, la fin d'un de ses livres. Et voilà la manière dont, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le colophon du livre, la toute dernière page, avec le lieu d'impression. Et donc, il peut remettre Uraniborg dans l'officine typographique de l'auteur. Donc là, il joue beaucoup sur ce prestige. Il utilise ici une allégorie de l'astronomie qui correspond à une statue qu'il y a dans son manoir. Donc, vous voyez, il y a tout un jeu symbolique aussi dont il peut bénéficier parce qu'il maîtrise l'intégralité du processus de fabrication de ses livres. Et donc, vous voyez, là, le point qui me semble intéressant, c'est qu'on voit que le processus imprimé a été perçu par certains auteurs comme quelque chose d'important, au point qu'ils aient pu décider de le prendre en charge eux-mêmes. Et on voit aussi que la maîtrise de ce processus donne à l'auteur, alors, dans le cas de Brahe, ça n'a pas été sans difficulté, et je ne cherche pas du tout à les minorer, mais lui donne aussi un certain nombre d'avantages, comme la capacité à produire très rapidement un livre de prestige au moment où il a besoin de se refaire une position et de trouver un nouveau patron. Alors plus rapidement peut-être, je voudrais confronter ce cas avec un autre auteur italien, cette fois-ci, qui est un auteur d'histoire naturelle, Ulisse Aldrovandi, bien connu dans ses murs, hein, où il était souvent évoqué. Ulisse Aldrovandi, qui est un médecin bolognais, qui a constitué un énorme cabinet, une énorme collection d'objets d'histoire naturelle, 18 000 échantillons à la fin de sa vie, et il veut les utiliser pour faire une grande histoire naturelle. Et c'est un énorme projet éditorial, par exemple, pour les seuls oiseaux, il publie 3 volumes, 2000 pages hein, chacun, hein, ici au milieu d'un volume. Et c'est un discours total, c'est extrêmement tout à fait typique de la Renaissance tardive. Il veut tout dire sur chaque animal. Alors vous qualifieriez sans doute pas ça de livre scientifique si je vous dis qu'il y a aussi le griffon, il y a aussi la chauve-souris dans ce volume sur les oiseaux. Mais l'idée, qu'importe ce débat-là, l'idée c'est que, il cherche pas, je pointe simplement un détail intéressant, il cherche pas, il se contente pas de décrire les oiseaux qu'il a vus. Finalement, ça serait beaucoup plus facile de décrire méthodiquement et rigoureusement les oiseaux qu'il a vus. Il veut décrire tous les oiseaux qui ont jamais existé ou jamais été mentionné par le moindre auteur depuis l'Antiquité. C'est beaucoup plus difficile, en fait. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus vaste. Hein, donc, c'est une sorte de discours total, mais qui peut servir aussi au poète qui veut comprendre la signification allégorique ou métaphorique de tel animal. Ça a un public beaucoup plus large également. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est possible d'éditer un livre comme ça. C'est parce que sinon, des spécialistes scientifiques des oiseaux, à son époque, il y en a deux ou trois, donc ce n'est pas la peine de faire un livre. Hein, donc vous voyez bien un peu le décalage qu'il y a entre la zoologie de cet auteur et la nôtre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un contrat avec un imprimeur, lui aussi, même principe que Tycho Brahe, il contrôle les détails, la qualité du papier, l'usure des caractères, l'endroit où doivent être insérées les images. Il fait lui-même réaliser les bois. Donc il y a toute une série d'implications de l'auteur dans la matérialisation physique de son œuvre sous forme de livre. Et puis, le livre, et c'est ça qui m'intéressera, est aussi un objet de don. Et là, on voit, c'est un bout de la page de titre gravé où vous avez l'auteur agenouillé auprès du pape à qui il remet humblement son livre. Et l'objet de don, le système des dons est extrêmement élaboré au point qu'il a fait faire des livres imprimés sur papier de grande taille, sur un papier luxueux, et puis il les fait relier lui-même. Et là, vous avez toute une gradation de qualité des livres entre les exemplaires imprimés sur grand papier, reliés, dorés, les exemplaires sur papier normal, relié, doré, les exemplaires sur papier normal, relié, mais pas doré, les exemplaires sur papier normal, non relié, et les exemplaires sur papier normal, incomplet. Donc, vous avez toute ça, parce que rien, ça coûte tellement cher que même si vous avez un exemplaire, il manque trois feuilles, vous en faites quand même quelque chose. Et donc, vous voyez toute une gradation des livres qui est utilisée de façon très subtile dans une série d'opérations de médiation sociale pour faire des... Alors, les plus bas, ça sert aussi à des paiements en nature. Par exemple, il paye son relieur en lui donnant deux exemplaires normaux du livre. Et puis, par contre, les exemplaires les plus prestigieux vont servir aux dons princiers. Donc, par exemple, ici, les premiers sont pour des cardinaux, les derniers sont pour des fonctionnaires de la curie. Ça, c'est l'exemple de la caisse qu'il envoie à Rome, et puis il y en a une autre qui va à Pise, où sont les grands-ducs de Toscane. Donc, il y a tout un jeu assez subtil. Et là, pareil, j'ai pu reconstituer les 80 bénéficiaires du premier tome de son livre sur les oiseaux. Et vous voyez, on a beaucoup de papes, de cardinaux. Vous avez aussi des notables de Bologne. Donc, il a besoin aussi de consolider sa position auprès de la ville de Bologne. C'est le Sénat de Bologne qui est son employeur en tant que prof d'université. Puis, il y a un échange scientifique en violet, après, avec des médecins et des correspondants. En rose, c'est plutôt les paiements en nature ou les remerciements. Et puis en vert, chancellerie et secrétaire, c'est surtout pour obtenir les privilèges, les droits, les monopoles d'impression. Donc là aussi, à l'étranger. Donc vous voyez, on voit très bien se déployer les stratégies de l'auteur à travers la reconstitution de l'ensemble de ses dons. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'imprimeur a fait faillite, il a été obligé de vendre lui-même les livres. Normalement, ça devait être moitié-moitié, et c'est lui qui récupère tous les livres et qui doit en assurer la diffusion. Et on voit, c'est assez amusant, parce qu'il fait les comptes 18 mois après l'impression, donc c'est quand même déjà un long moment. Il fait ses comptes et il constate qu'il a diffusé 105 exemplaires. Le problème, c'est qu'il en a donné 69 et vendu 36. Et donc, là, on voit très bien que la commercialisation est extrêmement, extrêmement difficile. Et ça n'est que le tome 1 d'une série qui fera finalement 14 volumes. Hein, donc ici, l'enjeu à travers le don de ce tome 1, c'est d'obtenir l'argent pour imprimer les suivants. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Et il fait donc tout un travail. Et voilà, par exemple, l'exemplaire qu'il donne au pape. Alors, c'est juste l'index, parce que en fait, le pape est passé à Bologne. Le livre était presque imprimé, sauf l'index. Pour imprimer l'index, il faut avoir tout le reste sous les yeux, et c'est assez long de collationner l'index. Donc il a donné au pape un livre sans index, ce qui lui permet de faire un deuxième cadeau en offrant l'index quelques mois plus tard. Et voyez le travail qu'il fait. Il fait une reliure avec les armes du pape en bleu au centre, et puis des devises, une devise latine qui joue sur les étoiles des armoiries du pape, avec la phrase « tant que je suivrai ces étoiles, jamais je ne perdrai ». Donc vous voyez un travail sur le patronage, une allégorie du patronage qui s'appuie sur les éléments emblématiques du pape. Et puis, à l'intérieur, le pape, vous ouvrez ça, et à l'intérieur, vous avez une épigramme calligraphiée, avec d'ailleurs un détail qui m'amuse beaucoup. Il est pris dans sa rhétorique latine, et il dit ici « et que Jupiter te donne la longévité de Nestor ». Et puis, visiblement, dans l'entourage du pape, il y a quelqu'un qui a trouvé ça un peu trop païen et qui a mis « et que Dieu, le Très-Haut, te donne la longévité de Nestor ». Là, vous voyez aussi, peut-être, je serais très amusé de savoir qui a fait la correction. Mais vous voyez, le livre a été dépaganisé par ce passage de Jupiter à Dieu. Et puis, on voit très bien comment le livre est utilisé comme objet de médiation sociale entre l'auteur et ses mécènes. Par exemple, quand il écrit l'exemplaire qu'il envoie au cardinal Farnèse, porte une épigramme qui est un dialogue entre l'auteur et son livre. Et donc il dit au livre, va livre et va saluer ton maître qui est aussi le mien. Puis il dit, mais quel est donc ce maître? Et à ce moment-là, l'auteur peut en mettre une tartine. Je veux dire, cet homme issu du sang illustre d'Aîné, qui a reçu du Sénat des Romains des armoiries assurées, etc. etc. Et donc, on voit très bien, à travers ce jeu poétique, on a une très belle illustration du rôle du livre comme médiateur entre le scientifique et un mécène potentiel qu'est ce cardinal. Et puis... je suis obligé d'aller un peu plus vite, mais ça prend des proportions assez stupéfiantes pour le cardinal Montalto, qui est le neveu du pape Sixte Quint, qui a, en fait, après les dons du tome 1, il a donné à lui tout seul, finalement, une gratification qui permettait d'imprimer le suivant. Donc, vous voyez, les ventes n'ont pas marché, mais le système des dons marche très bien, puisque finalement, sur un seul retour de don, il finance le tome suivant. Et alors, du coup, le tome suivant est logiquement dédié à ce cardinal. Et vous avez là un cliché de la copie de l'exemplaire donné au cardinal. Donc c'est un exemplaire sur grand papier, évidemment, avec une reliure dans laquelle au centre de laquelle vous voyez les armes du cardinal. Donc là, pareil, l'auteur a fait faire une reliure de très grand prestige en maroquin rouge aux armes de ce cardinal. Et à l'intérieur, le cardinal trouve cette page de titre gravée qui est entièrement construite autour de sa personne. Hein, le haut de la page, vous avez un portrait du cardinal entouré de deux allégories de la religion et de la justice. Et puis, vous voyez, en haut des colonnes, ici, vous trouvez les armes du cardinal, donc un lion tenant un rameau de poire dans la gueule et surmonté d'un bandeau sur lequel se trouve d'un côté une montagne et de l'autre une étoile. Et en fait, l'ensemble du frontispice donne lieu à une décomposition emblématique des éléments des armes de ce cardinal. Vous voyez, une étoile avec la devise latine « Dans ta lumière, nous voyons la lumière » ou un lion avec l'inscription « Tu t'es fait mon protecteur ». Donc, vous voyez, il décompose les éléments des armoiries du cardinal pour des allégories emblématiques qui, en plus, décrivent la relation de patronage, la relation de clientèle entre le savant et son patron. Et puis, donc ici, vous avez les quatre éléments des armes du cardinal, et ici, quatre autres éléments qui répondent de façon très subtile. Vous avez ici une étoile et un lion. Là, vous avez le lion céleste, le signe zodiacal du lion. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois étoile et lion. Et avec aussi, jamais je ne serai absent. Là, une référence païenne, cette fois-ci. Tout à l'heure, on était sous la religion, il n'y avait que des citations bibliques. Maintenant, ici, c'est une citation de Virgile. D'ailleurs, c'est le moment où c'est les adieux d'Aîné à sa mère. Donc là, c'est la dimension maternelle de la relation de patronage qui est mise en évidence ici. Et donc, vous voyez un peu la subtilité de ce type de déploiement allégorique. Et d'ailleurs, un des éléments, la cliché pas très lisible, mais le pied d'une des colonnes porte cette inscription qui veut dire « La vertu intérieure du très grand héros ne peut être exprimée ». Il y a un peu, et je pense que c'est peut-être la clé de lecture globale du frontispice qui vous dit finalement « Ce cardinal a des qualités tellement exceptionnelles que les mots sont impuissants à les restituer ». Et finalement, seule l'association de tout ce jeu allégorique et emblématique va pouvoir être à même de dépasser la faiblesse des mots pour rendre compte de la figure de ce cardinal. Alors, vous voyez un peu la complexité, le travail qui est fait autour de cette mise en livre des traités scientifiques. Donc voilà, j'avais d'autres exemples, mais je préfère arrêter là pour avoir le temps de répondre à vos questions. Et voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt. Alors je dis pas, ne me faites pas dire qu'il faut pas regarder les contenus scientifiques de ces livres, je le fais aussi par ailleurs, mais voyez comment on peut essayer de replacer tout ça et essayer de retrouver la cohérence de l'objet, hein, et notamment d'ailleurs Aldrovandi, il pousse encore très loin, parce que dans son c'est un livre sur les oiseaux, dans son chapitre sur l'aigle, il liste toutes les grandes familles romaines qui ont des aigles dans leurs armoiries. Et donc c'est une façon aussi de mettre quasiment tous ses protecteurs dans l'index du livre. Donc vous voyez, là aussi il joue beaucoup d'ailleurs sur l'adéquation entre le contenu, l'objet et donc finalement entre la matière scientifique et la matérialité physique de sa circulation à travers l'objet imprimé. Et donc pour terminer, je crois que c'est intéressant d'aller voir l'objet imprimé au-delà du texte, au-delà du seul contenu, et aussi d'aller voir les exemplaires au-delà d'une édition. Parce que vous voyez, quand on tombe sur un exemplaire, et ça sera ma dernière image, l'exemplaire du cardinal Montalto, toutes les gravures sont peintes. Et là, vous avez un cas où le message scientifique est très fortement accru. Donc là, ici, c'est une grue, et avec sa tache de couleur, par exemple, caractéristique sur la tête, vous voyez, le livre est beaucoup plus performant scientifiquement. Mais en fait, ça coûte un prix fou, ça coûte quasiment 10 fois le prix normal du livre de payer un peintre pour mettre les couleurs. Il n'y a que 3 exemplaires sur les 1000 qui ont été imprimés qui sont peints. Mais là, c'est un cas où, vous voyez, il y a une tension entre l'exemplaire de prestige et la forme de diffusion scientifique normale du livre. Et suivant qu'on... Vous voyez, l'œuvre n'a pas tout à fait le même sens suivant que vous tombez sur un exemplaire normal ou cet exemplaire sur grand papier rehaussé d'aquarelle. Voilà, je vous remercie d'avoir fait l'effort de me suivre sur ces périodes lointaines.
Merci beaucoup, Laurent Pinon. Le livre décrypté par un chercheur, un savant, Laurent Pinon. Et vraiment, ce travail de recherche est formidable. Donc, j'espère qu'il pourra aussi se faire en France. Là, tu as fait aussi du travail en France. Mais ce qui est passionnant, je pense, pour nos auditeurs, c'est de voir que le livre ancien n'est pas mort, que le livre ancien est dans les bibliothèques, que le livre ancien, on peut le toucher et on peut l'interpréter. Ouais, bon, par exemple, si on va à la bibliothèque universitaire de Poitiers, au fond ancien, on a des ouvrages extraordinaires. Je pense qu'il y a certains ouvrages que tu as cités là. Et il est vrai que, n'ayant pas cette connaissance, l'ouvrage est appréhendé d'une autre manière. Ça veut dire que, d'une part, maintenant, si tu veux, grâce à Internet, on peut les voir. On n'a pratiquement plus le droit de les toucher. Donc j'espère que toi, tu as la chance de faire ce travail. Tu as une passion que tu fais passer à tout le monde et une connaissance, un décryptage en effet du livre, non seulement de la forme du livre, mais de la forme et du fond, à savoir que l'illustration et le contenu font corps et que le livre est aussi social. Et ça, c'est important, ce que tu dis sur l'histoire de l'édition à l'époque moderne est très important. Et en effet, la communication, la publicité, elle ne date pas de nos jours. Il n'y a pas besoin de catalogue d'éditeurs pour faire de la communication. On voit comment Tycho Brahe et les autres font leur propre communication. Et bon, il y a aussi tout ce côté, l'effet du prince, etc., qui est absolument passionnant à cette époque. Et bon, on t'attend de nouveau, Laurent, hein, bien entendu, parce qu'on reste aussi sur sa fin, parce que c'était superbe comme d'habitude. Mais je sais qu'on a toujours cette appréhension d'aller voir les livres anciens parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on pense que les livres anciens sont poussiéreux. Et les livres anciens ne sont pas poussiéreux quand c'est montré comme ça. Et sachez aussi qu'avec tous les sites internet qu'il y a, vous pouvez aller voir des livres. On parle de la bibliothèque, on a déjà parlé ensemble de la bibliothèque de Florence, où tu as d'autres noms certainement à nous citer, la BUM, etc., tout le travail qui est fait de recherche. Vous entendez parler d'un auteur, vous cliquez, il y a des sites intéressants, et là, il y a des choses qui vous parlent. Après, bien entendu, Ton savoir et ton interprétation, tout le monde ne l'a pas. Mais ce que tu nous montres ici aujourd'hui, c'est que tout le monde, c'est qu'en fait, il faut y aller. Il faut ne pas avoir peur de franchir la barrière de ce savoir. Et surtout, ce qui est très important, c'est de dire que le livre ancien, il a une histoire et il n'est pas dans un placard. Et Pascal Duris, quand il faisait ses ateliers, il apprenait à lire des textes dans les livres anciens. Et moi, je me dis en écoutant Laurent que c'est dommage, en fait, que je n'ai pas pu sortir un livre de la bibliothèque universitaire. On en aurait parlé avant, j'aurais été en chercher, j'aurais demandé, parce qu'ils n'ont pas de raison qu'ils restent là-bas, que vous ne les voyez pas. Et aussi à la médiathèque de Poitiers, qui est une médiathèque formidable. Et je pense qu'avec vos élèves, vous pouvez faire des choses comme ça. Vous pouvez sortir un livre un jour, et puis vous dire, voilà, comment je peux travailler ce livre après cette conférence, etc., et chercher le moyen d'en parler aux élèves. Donc là, moi, je parle en néophyte, mais ça donne des idées quand même. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas. La parole est à la salle.
Alors, ça serait peut-être trop long à exposer, mais le choix de Rome et de la période de votre inventaire. Pourquoi Rome? Oui.
Alors, la période. Rome, c'était, en fait, Rome, c'était parce que j'ai été engagée dans un projet de recherche collectif franco-italien sur la culture scientifique à Rome, parce qu'il y avait justement aussi ce débat sur science et religion, science et église, etc. Et donc, dans le cadre de ce groupe, moi, j'ai, comme c'était un peu mon savoir-faire, moi, j'ai proposé d'établir cette bibliographie pour essayer d'avoir un angle d'approche un peu latérale sur cette question et puis finalement un peu qui échappe un peu au prisme un peu chargé du débat science religion etc. Donc finalement de le trouver de manière latérale, d'avoir des éléments qui me semblent assez probants à mettre dans le dossier, en fait.
Et puis une deuxième question, vous avez évoqué donc 1290 éditions. Est-ce que vous avez l'impression de peut-être d'être un peu loin de la réalité par rapport à...
Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de conservation, il y a le problème de la conservation. Il y a ma capacité à les trouver, mais au bout d'un moment, quand on voit qu'on voit toujours les mêmes et qu'il n'y en a pas de nouveaux, on peut penser qu'on a un peu fait le tour de ce qu'il y a. Et c'est vrai que les catalogues en ligne sont extrêmement performants parce que du coup, on peut interroger des catalogues par lieu d'impression. On épluche tout ce qu'il y a et au bout d'un moment, on voit qu'on a à peu près tout ce qui est atteignable au jour d'aujourd'hui. Maintenant. Un livre de grand format, ça ne peut pas disparaître. Un livre de grand format, on ne connaît aucun exemple de livre in folio, de ces gros livres-là, du XVIe siècle, qui aurait disparu, par exemple. Dont tous les exemplaires étaient... Il faut vraiment que toutes les bibliothèques qui les contiennent brûlent. Par contre, des petites pièces imprimées dans ce format-là, sur 4 ou 8 pages, là, les déperditions sont énormes. Et finalement, c'est peut-être même de manière accidentelle qu'on les retrouve. Et il y en a, j'en ai retenu, et là, je sais pour le coup que c'est juste un... indicateur. Ça indique plutôt qu'il y a eu ce type de publication, mais on peut en aucun cas penser, par exemple, vous avez des recettes médicales ou les merveilleux secrets de l'eau de la reine de Hongrie. Enfin, donc ils sont quasiment des publications privées d'un commerçant qui vend un produit de pharmacopée. Ça, je pensais que c'était important aussi de le prendre en compte pour pas non plus avoir une vision de la culture scientifique qui serait celle des élites universitaire et sociale. C'est aussi important d'avoir une stratification sociale de ce qui pouvait se faire dans ce champ-là. Mais là, sur ces pièces-là, il y a beaucoup plus de pertes et on n'a que des indices.
Moi, j'aurais une question, c'est sur l'indépendance du sujet de recherche de l'auteur. Parce qu'on a tendance à dire qu'actuellement, les chercheurs sont un peu soumis à la pression des laboratoires qui les financent. Est-ce que pour l'époque, parce que dans les ans que vous avez donnés, on a l'impression que le dernier exemple, la personne a voulu faire son travail lui-même, indépendamment et a essayé de chercher un financement pour le publier. Et je voudrais savoir si, à cette époque-là, il y avait quand même aussi le fait d'avoir des recherches orientées dans le sens de celui qui va financer.
Il n'y a pas de statut professionnel du savant. Donc là, cet auteur, il est professeur de médecine à l'Université de Bologne, le dernier dont j'ai parlé. Et donc, c'est la médecine qui le fait vivre. Après, il se trouve que son salaire de médecin ne lui permet pas de publier ses livres, donc il a besoin, en plus, de rentrer dans des réseaux de patronage nobiliaire. Mais, quelqu'un qui... La plupart des scientifiques du XVIe et XVIIe siècle font ça en hobby le soir et le week-end, en gros. Donc, du coup, ils ont une liberté thématique, et en général, ils vivent d'autres choses, hein, souvent de la médecine dans les champs, qui m'intéresse. Et puis après, il y a quelques positions comme astronome princier qui établit les horoscopes du prince, par exemple, ou les calendriers, etc. Donc c'est plutôt le statut de Tycho Brahe serait plutôt ça. Par exemple, quand il est recruté comme astronome impérial par l'empereur Rodolphe II. Donc là, il correspond à un statut, pas un statut professionnel, mais au moins un statut qui lui permet de vivre.
Donc vous voulez dire qu'à cette époque-là, ils étaient quand même assez indépendants du financement dans leur sujet de recherche.
Indépendants dans la mesure où ils ne s'étaient pas payés. Dans la mesure où ils ne sont pas professionnalisés. Après, par exemple, au XVIIe siècle, quand l'Académie royale des sciences est créée, il y a un certain nombre de chaires qui sont affectées thématiquement. Et donc, il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans les champs thématiques si vous voulez avoir une chance d'être élu. Et le roi peut... moduler les champs thématiques en fonction de ce qui lui semble être des priorités scientifiques.
Oui, quand on voit la richesse iconographique des documents que vous avez présentés, on peut se poser la question de la durée pour publier un tel ouvrage et le problème de la compétition entre scientifiques. À savoir, est-ce qu'on ne va pas publier en fait en retard par rapport à quelqu'un qui aurait un peu d'avance?
Alors, pour une encyclopédie comme celle d'Aldrovandi, ce n'est pas un problème. Pour Tycho Brahe, c'était un problème énorme. Et notamment, il a été obligé de... Je n'ai pas pu rentrer dans le détail, j'aurais pu parler que de lui. Mais en fait, il a été obligé, par exemple, d'interrompre la publication du fameux tome premier qui manquait pour publier des lettres astronomiques. Il a fait pareil un volume à la va-vite parce qu'il avait un problème de querelle d'antériorité scientifique. Et donc là, finalement, son retard à la publication lui a nui, et en même temps, sa capacité à publier très vite hein, avec les matériaux qu'il avait déjà lui a permis de sauver un peu la mise. Et donc c'est effectivement un problème. Et sinon, un ouvrage comme celui d'Aldrovandi, il faut un an pour le publier, puisqu'en publiant une page par jour, une feuille de papier, en faisant passer une feuille de papier par jour sur la presse, hein, quand le livre fait plus de 1000 pages, ça fait plus de 250 feuilles à imprimer, donc ça fait une année complète avec les jours fériés. Hein, donc effectivement, c'est des procédures. Ça, c'est dans le cas où vous avez tous les matins le papier qu'il faut, il n'y a aucune rupture de rien du tout, ce qui est un cas théorique, évidemment. Et pardon, il y a un autre exemple très connu sur cet aspect-là, c'est Galilée. Le messager céleste, c'est le livre qui rend compte de l'observation des satellites de Jupiter qu'il a commencé à imprimer alors qu'il était encore en train de tenir le journal d'observation. Il a commencé par les observations, il a imprimé d'abord la partie observationnelle pendant qu'il négociait la dédicace avec le grand-duc de Toscane. Hein, donc là, il a vraiment imprimé dans l'urgence pour être sûr d'être le premier à publier sur la découverte.
Je voulais savoir s'il n'y avait pas des fois des contenus scientifiques qui avaient été déformés à cause de l'impression. Vous disiez que Tycho Brahe pouvait toujours vérifier. Et est-ce que même sur ce qui est accompagné donc, au niveau des gravures, les dessins, il me semble que par la suite, il y a eu des fois des erreurs d'interprétation à cause d'un dessin qui avait été fait après la supervision de l'auteur. Et donc voilà, est-ce que ça arrivait souvent déjà à l'époque, au début de l'impression?
Oui, ça peut arriver, et ça peut arriver notamment lors des rééditions. Vous avez des rééditions qui sont faites dans un autre pays, parfois de manière non autorisée, parfois en essayant de minimiser les coûts, donc on ne prend pas toujours les moyens de tout vérifier, et vous pouvez avoir des introductions d'erreurs. C'est vrai que le débat sur l'impact de l'imprimerie doit aussi prendre en compte le fait qu'on peut, dans certains cas, altérer les textes. Mais je dirais que globalement, l'imprimerie protège beaucoup mieux les textes que la diffusion manuscrite, où les erreurs peuvent se transmettre et s'accumuler les unes derrière les autres.
Et j'avais aussi une deuxième question. Est-ce qu'il y a, à l'époque de l'imprimerie, est-ce qu'il y avait des scientifiques qui ont pu quand même diffuser leur savoir de façon manuscrite, malgré tout ?
Oui, oui, tout à fait. L'imprimerie n'a pas stoppé la diffusion manuscrite. Et après, il y a même des domaines où on considérait, où certains savants, par exemple en mathématiques, qui préféraient ne pas publier, ne pas rendre publiques leurs découvertes, qui pouvaient les réserver à leur seul prince, ou qui pouvaient. Donc, l'imprimerie n'est pas l'unique standard. Et puis, l'imprimerie a l'air de consécration, c'est-à-dire tout le monde n'a pas les moyens forcément de publier. Il faut déjà une certaine notoriété pour accéder, ne serait-ce qu'économiquement, au coût de l'imprimerie.
Pour savoir s'il y a aujourd'hui des catalogues ou des livres sur les notes de bas de page et de marge des savants sur les livres d'autres savants, parce que ça doit être passionnant.
C'est une piste de recherche importante. Donc vous avez parfois des bibliothèques qui indexent dans leur catalogue les possesseurs, par exemple. Vous avez, mais c'est souvent des enquêtes sur une œuvre très pointue, des spécialistes qui travaillent sur une œuvre, qui vont essayer d'en voir beaucoup d'exemplaires et d'identifier, de reconnaître. Mais souvent, ils sont anonymes, ces annotateurs. Et puis, vous avez l'autre point d'accès qui est la reconstitution des bibliothèques. Et là, on peut, par exemple, donc accéder aux annotations d'un auteur par la reconstitution du devenir des exemplaires de sa bibliothèque. Donc ça, c'est aussi une voie d'enquête tout à fait importante.
Je crois qu'il y a les travaux de quelques auteurs qui sont connus que par leurs notes de marge, les travaux scientifiques.
Oui, c'est tout à fait. J'ai pas d'exemple en tête, mais c'est tout à fait envisageable, effectivement.
Ça suscite beaucoup de questions, tu vois, en ce moment, ravi.
Je voulais savoir ce qui s'était passé pour les livres qui ont été, disons, interdits par l'Église. Je sais pas, mis à l'index, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, exactement. Ouais. Alors, ça concerne assez peu de livres scientifiques. Hein, mais en principe, un livre qui est mis à l'index, on doit aller le rapporter à son prêtre, qui va lui-même le donner à l'évêque. Donc, on n'a pas le droit de le garder, on n'a pas le droit de le vendre, on n'a pas le droit de l'importer dans le territoire. Déjà, il faut comprendre que c'est des logiques territoriales, c'est-à-dire que l'index de Rome concerne les États pontificaux et éventuellement les catholiques qui décideraient de s'y soumettre. L'index de Venise concerne les territoires vénitiens, etc. Donc il y a des jeux, des possibilités aussi de délocaliser une impression pour contourner un index, etc. Et pour les livres scientifiques, ça concerne assez. Donc les thèses de Copernic vont être condamnées en 1616, mais à cause des problèmes avec Galilée, finalement. C'est pas en soi, pendant de 1543, publication du De Revolutionibus à 1616, il n'y a pas d'interdiction des thèses de Copernic, par exemple. Et Galilée sera soumis à ces problèmes de mise à l'index, qui fait que ses œuvres vont être rééditées en dehors d'Italie, notamment en Allemagne. Bon, ben moi, je merci beaucoup pour m'avoir suivi dans ces contrées historiques lointaines. Et voilà, si ça peut effectivement, comme le disait Anne, vous donner l'envie d'aller regarder, même sous forme numérisée, ces publications plus ou moins anciennes, ben j'en serais ravie.
Merci beaucoup, Laurent. Merci. On fait une petite pause de 10 minutes. D'accord ? À tout de suite. Merci. Ah, dommage. Merci à tous. Nous reprenons. En fait, si vous avez des papiers à donner, les papiers pour les signatures, c'est Dominique qui s'en occupe, qui me redonnera le dossier. Ensuite, si vous avez, je sais pas, quelqu'un, une personne m'a dit, est-ce que vous reprenez le dossier ?
Moi, ça me dérange pas. Je vois Mario ce soir, alors je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Il y a des, vous avez certainement des dossiers à remettre. Est-ce qu'il faut les envoyer au rectorat. Je ne sais pas. Mais vous inquiétez pas, je vois Mario tout à l'heure. Voilà, voilà, d'accord.
Donc nous accueillons, nous sommes toujours dans les images, mais sans doute dans d'autres images. Voilà, l'image comme élément de preuve en physique des matériaux, l'image contemporaine. Ce sera une conférence de Catherine Lamel-Raffin, qui est maître de conférence en épistémologie, histoire des sciences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg 1, membre de l'IRIST. On avait quelqu'un de l'IRIST hier dans nos murs. Alors Marion Thomas m'a dit, tu vas encore faire de la pub pour l'IRIST. Et oui, je vais en faire. Donc l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les sciences et les technologies. Et donc, si tu le permets, Catherine, je vais dire un peu ce que tu fais. Et j'ai surligné parce qu'il a fallu que je sélectionne. Hein. Je disais donc que tu es maître de conférence en épistémologie, en histoire des sciences et des techniques. Donc ton thème de recherche, tes thèmes de recherche sont sémiotique de l'image scientifique, anthropologie de laboratoire, physique des matériaux, astrophysique et sciences de la vie, épistémologie, philosophie des sciences de la nature. Et ton sujet de thèse portait sur la production et les fonctions des images en physique des matériaux en astrophysique. Et tu as eu une distinction honorifique, donc je le dis ici. Prix de thèse 2005 du Conseil scientifique de l'Université Louis Pasteur Strasbourg. Et donc, tu enseignes à l'ULP, et entre autres enseignements, parce que je vois que c'est énorme. Depuis, tu es à Strasbourg depuis 2002.
Depuis 2004.
2004. Donc là, en ce moment, tu enseignes dans l'UE Découverte, comment s'élaborent les connaissances scientifiques, donc toutes disciplines sauf médecine. Et tu enseignes aussi en médecine, on en a parlé. Et tu enseignes aussi l'expérimentation pratique, instruments et théories en master. Et tu es responsable des stages d'initiation à l'anthropologie des sciences, co-organisation des journées d'études des usages du vivant, qui est l'enjeu pour les biotechnologies, organisation des journées d'études pluridisciplinaires, les images scientifiques de leur production et leur diffusion, Université Louis Pasteur, janvier 2008. Donc, voilà, donc Catherine Lamel-Raffin est vraiment quelqu'un qui produit, qui travaille énormément. Tu as aussi, j'ai noté que tu avais, que dans la communication, dans la revue Communication et Langage, tu avais écrit quelque chose qui est un sujet très intéressant, la complexité des images scientifiques, ce que la sémiotique de l'image nous apprend sur l'objectivité scientifique, et aussi de l'intérêt des cycles pour les études sur la science. L'exemple d'une analyse portant sur les images en physique des matériaux et en astrophysique dans l'acte du 15e Congrès national des sciences de l'information et de la communication à Bordeaux. Et pour finir, parce que vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, les informations concernant nos conférenciers sur les sites Internet, j'ai noté aussi, et ça intéressera beaucoup mon collègue du Planétarium, puisque nous avons des conférences d'astrologie, d'astronomie, beau lapsus, mais astrologie, nous l'avons fait aussi, et aussi sur la fausse science, etc. Et ça, ce sont des sujets qui passionnent le public. De la lunette de Galilée au microscope à effet tunnel, dans les génies de la science que vous connaissez, vous pouvez trouver dans vos CDI facilement. Et pour finir aussi, parce que je me sens un petit peu concernée, étant donné qu'il s'agit des actes du congrès de Poitiers qui est là devant vous et que vous pouvez bien sûr consulter et que vous pouvez acheter. Comment classer les images scientifiques, une mise en perspective historique d'une grille d'analyse sémiotique. Voilà. Je n'ai pas tout dit, j'en ai. Voilà. Et en tout cas, je t'en remercie beaucoup, Catherine, et vraiment, je suis ravie de t'écouter aujourd'hui. Merci infiniment.
Bon, bien, merci de m'avoir accueillie, Anne. Alors, excusez-moi, ça ne va pas être de l'histoire des sciences, ça va vraiment être la période tout à fait contemporaine, puisque, comme vous l'avez compris, je vais beaucoup dans les laboratoires, je fais beaucoup d'anthropologie des sciences. Donc, en gros, je vais observer les scientifiques en train de travailler. Donc, ma communication aujourd'hui, l'image comme élément de preuve en physique des matériaux. Alors, ma communication partira d'un étonnement signalé à notre attention par un philosophe, sociologue des sciences, ça dépend dans quelle catégorie vous le mettez, Bruno Latour en tout cas, celui des ufologues. Attendez, je vais juste remettre ça. Lorsque les détracteurs, leurs détracteurs ne prennent pas au sérieux l'image d'une soucoupe volante qu'ils leur présentent. Pourtant, s'indignent les ufologues, les revues scientifiques à comité de lecture, tout à fait sérieuses, regorgent d'images. Alors, comme le souligne Bruno Latour, dont je viens de parler, j'arriverai pas, oui, voilà, pour imiter leur autorité, les parascientifiques, dont les ufologues font partie, prennent les savants au pied de la lettre et produisent à leur tour une image de soucoupe volante, un polaroïde de Sainte Vierge, un enregistrement d'esprit frappeur. Or, curieusement, les scientifiques n'ajoutent pas foi à ces témoignages isolés, et indignation évidemment des parascientifiques qui tapent du poing sur leurs preuves et accusent les autres d'obscurantisme officiel. Donc si vous voulez, je partirai de cette question qui constitue en fait un point de malentendu entre ceux qui se considèrent comme exclus de la science, c'est-à-dire tous les parascientifiques. Une image, est-ce qu'une image peut constituer une preuve? Évidemment pour les ufologues, oui, pour les autres, pour les scientifiques, non. Et je vais essayer de répondre à cette question dans la suite de mon propos. Alors ma communication va comporter trois parties. D'abord, la première, je vais essayer de fournir une réponse partielle, évidemment, sur ce qu'on appelle une preuve. Donc je vais essayer de définir, c'est un travail de définition initiale sur laquelle je vais m'appuyer dans un deuxième temps pour établir l'éventuel statut probatoire des images réalisées, cette fois-ci en physique des matériaux. Et pour ce faire, pour être plus concrète, je vais prendre pour base empirique de mon analyse un article qui a été publié par trois chercheurs strasbourgeois dans Physical Review B en 2001. Et puis, dans un troisième temps, je tirerai quelques conclusions de ce rapprochement de ma définition et de cette publication. Alors, je vais commencer par définir le mot « preuve » et essayer de voir quand le mot « preuve » est employé. Alors, comment le mot « preuve » est-il employé? Alors très souvent, on pense connaître le sens de ce mot, ça n'a pas l'air d'être un mot très compliqué, mais quand il s'agit de le formuler, les choses ne sont pas aussi simples. Quand on essaie de définir, définir la preuve dans les différents domaines qui convoquent ce terme, ça n'est pas aussi simple. Alors j'ai essayé, je me suis essayé à cet exercice, et j'ai essayé de voir à quel concept de preuve on pouvait dégager de l'ensemble de ces usages. Alors quand je dis l'ensemble de ces usages, c'est la vie quotidienne, hein, tout simplement, on emploie ce mot quotidiennement, en métaphysique, en droit, on parle aussi beaucoup de preuves, et puis évidemment en science. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut dire sur ce concept de preuve, c'est que on peut le considérer comme un concept empirique, au sens en fait du philosophe autrichien Friedrich Weissmann. Donc le concept empirique, selon ce philosophe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça se caractérise par une texture ouverte. Les concepts empiriques, en fait, ne sont pas définissables sous la forme d'un ensemble de caractéristiques établies une fois pour toutes, comme c'est le cas, par exemple, des concepts auxquels recourent les mathématiques. Si vous pensez au concept de triangle, par exemple, il est défini une fois pour toutes au sein de la géométrie euclidienne. En revanche, il y a un certain nombre d'autres concepts auxquels il est toujours envisageable d'ajouter de nouvelles caractéristiques, et le concept de preuve fait partie de ce type de concepts, donc des concepts empiriques. Et pourquoi on peut rajouter de nouvelles caractéristiques? Eh bien, parce qu'en fait, de nouvelles pratiques probatoires au cours de l'histoire, notre manière de faire les sciences, je crois que vous être sensibilisé à ça depuis, si j'ai bien compris, un bon moment, a bien sûr évolué, et donc les manières de prouver ont évolué, et donc de nouvelles pratiques peuvent émerger au cours de l'histoire, et donc la définition qu'on peut donner de la preuve, du moins en science, va évoluer également. Alors je vais vous proposer 7 traits très très généraux qui me semblent caractériser le concept de preuve, donc sur la base des usages qu'on en fait dans la langue, dans le langage ordinaire, et puis sur la base de ce que j'ai pu trouver chez les philosophes, les juristes et évidemment les scientifiques. Alors voici les traits communs. Alors d'abord un préalable. En guise de préalable, notons d'abord, je me suis demandé quand c'est qu'on parlait de preuve en général, eh bien avec Fernando Gil qui a fait un très bel ouvrage qui s'appelle Preuve tout simplement et qui fait un historique de la preuve. Il n'y a de demande de preuve que là où ne règne pas l'évidence partagée. On ne parle de preuve que si on n'est pas d'accord sur quelque chose, bon, en gros. Bon, une fois parti de ce constat, voici les traits communs, donc ils sont au nombre de 7 que je vais récapituler. Donc premièrement, quand on a donc des traits communs à tous les types de preuves, en maths, dans le domaine juridique, etc., etc. Premièrement, il s'agit d'abord d'établir une relation entre une raison, c'est-à-dire, pour faire simple, ce qui prouve, et une conséquence, ce qui est approuvé. Là, j'ai repris les termes d'un logicien très célèbre qui s'appelle Tadeusz Kotarbiński, logicien polonais, qui a beaucoup réfléchi à la notion de preuve en logique notamment. Donc cette mise en relation entre la raison et la conséquence suppose, à un moment ou à un autre, une mise en forme à l'aide des ressources du langage articulé. On va, en gros, formuler une ou plusieurs propositions langagières. Donc la conséquence se présente souvent d'emblée sous la forme de propositions langagières. La raison, quant à elle, peut prendre primitivement la forme d'objets matériels, d'images, et est traductible sous une forme propositionnelle. Deuxièmement, pour que l'on puisse parler de preuve, la relation entre ce qui prouve et ce qui doit être prouvé ne doit pas paraître comme arbitraire, sinon on n'aurait pas de preuve. Autrement dit, la relation entre la raison et la conséquence doit être perçue comme motivée, et cette mise en relation doit être sous-tendue par une exigence de rationalité. Il faut que ce soit une relation qui soit rationnelle. Donc, cette exigence de rationalité se traduit en particulier par le respect des règles logiques, dont la validité est placée au-dessus de toute discussion, jusqu'à nouvel ordre, et prend notamment la forme, alors en fonction des sciences, évidemment, c'est un petit peu différent, de modes de raisonnement qui varient selon les domaines, donc la déduction, célèbre, l'induction, l'abduction, même des raisonnements analogiques, etc. Troisième point. Pour réaliser la mise en relation entre une raison et une conséquence, il faut d'abord également disposer d'un cadre de croyance fondamentale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadre de croyance fondamentale? Eh bien, c'est un noyau de présupposés initiaux auxquels on adhère et qui peuvent, en général, rester pour la plupart du temps implicites. Par exemple, en science, un des noyaux qui reste implicite, c'est la régularité des phénomènes, ou alors le fait que l'univers soit écrit en langage mathématique. Si on prend le domaine de la justice, une des croyances fondamentales est, par exemple, le caractère condamnable de la vengeance privée. Donc c'est quelque chose qui reste très souvent plus ou moins implicite, et on en a besoin. Quatrièmement, on a besoin d'un dispositif opératoire. Alors le dispositif opératoire peut inclure des éléments axiomatiques, matériels, techniques, rhétoriques, etc. Ça dépend des domaines. Dans les sciences de la nature qui nous intéressent, c'est-à-dire la physique, la chimie, la biologie, le dispositif opératoire est constitué par les théories, par les modèles, par les instruments, les pratiques expérimentales et puis aussi les êtres humains qui sont dotés de savoir-faire, parfois tacites dans certains domaines. Cinquièmement, le processus probatoire suppose l'existence de critères de délimitation. Ce qui est recevable comme une preuve suppose qu'on se soit accordé au préalable sur là ou les propositions qu'il s'agit de prouver, qu'on se soit également accordé sur la pertinence de la raison par rapport à la conséquence, et qu'on se soit accordé également sur la pertinence et la fiabilité du dispositif opératoire. L'exigence de délimitation permet notamment de ne pas se retrouver pris dans une régression à l'infini, c'est-à-dire qu'après avoir prouvé que X, il faudrait encore prouver la preuve de X, puis la preuve de la preuve de X, etc. Et comme ça, on pourrait remonter à l'infini. Donc, en général, il y a un critère de délimitation. Il faut donc accepter de s'en tenir à une raison et renoncer à vouloir en remonter toute la chaîne. Sixièmement, le processus de mise en relation entre raison et conséquence n'a de sens qu'à l'intérieur d'une communauté humaine. Ceux qui ont pour charge de prouver visent, évidemment, l'assentiment d'un ou de plusieurs interlocuteurs. Ce qui est visé, c'est l'établissement d'un accord ou alors d'un consensus. Ceux qui établissent l'accord ou le consensus, ce sont par exemple les membres d'un jury et le juge dans un procès d'assises. Et en sciences, les auteurs, mais également les relecteurs de la revue à comité de lecture qui vont passer en revue ces propositions d'articles et décider s'ils sont recevables ou non. Alors, septièmement, et c'est pas le trait le moins problématique, le processus probatoire a enfin pour fonction d'établir qu'une ou plusieurs propositions sont vraies. Alors, 25 siècles de réflexions philosophiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer ont été l'occasion de proposer des définitions de la vérité sans qu'on parvienne à une réponse définitive quant au statut et à la signification de ce qu'on peut mettre sous le terme vérité. Enfin, quelle que soit la définition qu'on en donne, la vérité, en tout cas, constitue une condition qui doit être nécessairement satisfaite pour qu'on puisse parler de preuve. Lorsqu'elle n'est pas satisfaite, la proposition n'est pas vraie, il faut chercher donc les dysfonctionnements dans les six autres traits. Donc voilà, si je résume, les sept traits doivent être présents simultanément pour que l'on puisse parler de preuve. Mais ce qui est intéressant, si on prend ces traits, c'est de constater que selon les historiens, les philosophes ou les sociologues, certains de ces traits sont mis plus ou moins sur le devant de la scène et donnent et permettent ainsi de décrire un spectre des positions épistémologiques. Je vais vous montrer qu'à partir de ces traits, on peut avoir, si on insiste sur certains traits et moins sur d'autres, on peut avoir des visions bien différentes de ce que peut être une preuve. Par exemple, si je prends, alors je vais prendre le spectre de deux positions extrêmes, hein, donc la position du, ce que j'ai appelé le rationaliste absolutiste pur et dur, qui est souvent, dans ce cas-là, un philosophe, placera sur le devant de la scène l'exigence de rationalité, évidemment. Et puis les procédures de formalisation qui permettent de garantir finalement la relation entre la raison et la conséquence et de finalement proposer une conséquence qui soit vraie. Il mettra aussi une certaine emphase sur les critères de délimitation. Par exemple, on s'interrogera sur le point de savoir si on peut légitimement faire confiance aux résultats d'une expérimentation. En revanche, pour un philosophe, notamment un philosophe des sciences, le dispositif opératoire, c'est-à-dire entre autres les êtres humains et les instruments, ne constitue en général pas un problème et se voit rejeté dans l'arrière-plan, ainsi que tout ce qui est communauté humaine et croyances fondamentales, tout ça, ça passe un petit peu à l'arrière-plan. La conception de la preuve, qui est celle du rationaliste absolutiste, pure et dure, est très exigeante. Elle conduit à négliger la complexité humaine, inhérente à l'élaboration de la preuve, et à sélectionner de manière trop réductrice ce qui peut valoir comme preuve. À la limite, en poussant un petit peu, en caricaturant, tout ce qui est hors des sciences formelles, telles que les mathématiques et la logique, doit être banni, car entaché toujours d'incertitude propre au domaine de l'expérience pour un rationaliste pur et dur. En revanche, si je prends l'autre côté du spectre, pour le relativiste, qui adopte donc une position opposée à celle du rationaliste absolutiste, la scénographie va être comme inversée. Sous la lumière crue des projecteurs, on va trouver la communauté humaine, la dimension humaine et instrumentale du dispositif opératoire. On va trouver également les critères de délimitation, qui sont souvent rapportés dans ce cas-là aux intérêts humains en jeu ou politiques au sein d'un laboratoire. Pas très loin, on trouve aussi le cadre de croyances fondamentales. En revanche, ce qui est rejeté à l'arrière-plan de la scène, c'est l'exigence de rationalité et de vérité, qui sont complètement passées dans l'ombre, et puis la prétention à la vérité, notamment, est totalement vaine pour un sociologue relativiste, en raison du poids décisif des facteurs humains. C'est la prétention, du coup, à la possibilité d'établir une preuve authentique, quel que soit le domaine, qui se défait du même coup quand on adopte une position relativiste. Alors évidemment, bien d'autres positions peuvent être adoptées, et en particulier celle dont je me sens la plus proche, c'est celle qui correspondrait en fait à un faillibilisme prêt à reconnaître tout à fait l'importance des facteurs humains, tout en considérant que les résultats obtenus par les chercheurs dans les sciences expérimentales sont néanmoins plausibles, au-delà de doutes raisonnables, et constituent des vérités, en tout cas au moins provisoires. Alors sur la base de cette définition que je viens de vous proposer, est-ce que les images qui sont produites actuellement en physique des matériaux peuvent être considérées comme des preuves? Est-ce qu'on retrouve dans les utilisations qui sont faites des images les 7 traits de la preuve que je viens d'évoquer? Alors, juste une remarque préliminaire avant de rentrer dans la publication. Dans la suite de mon exposé, j'entends par image, en fait, une représentation visuelle bidimensionnelle qui est réalisée sur un support matériel, écran ou papier. Ici, ça sera que papier. Et par image, j'entends donc tout ce qui n'est pas strictement textuel, et j'inclus donc les graphes et les courbes dans l'ensemble constitué par les images. Je précise ça parce que même au sein dans les laboratoires, pour y avoir été très longtemps, même les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce qu'est une image scientifique. Donc, pour qu'on soit tous d'accord, je propose cette définition qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, dans les publications en physique des matériaux, les images jouent un rôle essentiel. Et comme l'ont signalé Daniel Jacobi et Bruno Latour, dans les articles scientifiques, c'est le texte, en fait, qui accompagne les images, et non l'inverse. Comme l'écrit notamment Bruno Latour, le texte n'est pas seulement illustré par des images, il est le développement de celui-ci. Alors j'entends par texte le texte principal, et puis évidemment la légende, qui est un texte aussi particulier, mais qui est un texte. Alors quelles sont dans ce cas, plus précisément, les fonctions du texte dans un article scientifique, tout domaine confondu, là. Alors, on peut trouver trois fonctions. Enfin, moi, je vais dégager trois fonctions. Une fonction d'ancrage, au sens où Roland Barthes le définit, c'est-à-dire que le texte contient la description très précise de ce qu'il convient de voir sur une image donnée. Donc, on ancre le sens de l'image. On peut trouver aussi une fonction de relais. Le texte, alors, va apporter des précisions, notamment quantitatives, qui sont inaccessibles à la seule vue de l'image, même par des spécialistes, du moins du domaine de recherche concerné. Donc, ça apporte des informations supplémentaires. Et puis, il peut y avoir aussi une fonction de mise en perspective, c'est-à-dire que le sens d'une image donnée va être complété par des résultats obtenus dans la même publication ou dans d'autres publications. Donc le domaine d'études que j'ai choisi là pour aujourd'hui, c'est la physique des matériaux. C'est-à-dire, ce domaine étudie en fait les phénomènes physiques qui se passent dans le laboratoire où j'étais, au niveau atomique, entre deux surfaces de matériaux, et ici c'est des métaux, dans le laboratoire où j'étais. La publication que je me propose d'étudier appartient au type d'article qui vise à expliquer un fait surprenant. Les scientifiques, vous allez le voir, ont été confrontés à quelque chose de surprenant, et ils essayent d'apporter une explication, plus ou moins, évidemment, en espérant que ce soit la bonne. Donc le titre de l'article, « Absence of ferromagnetic order in ultracine rhodium deposits ground under various conditions on gold », et donc c'est de M. Chadeau, Scherer et Boucher, Physical Review B, en 2001. Alors je vous ai scanné simplement toutes les pages de l'article. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Donc comme on peut le voir, un tel article comporte quand même de nombreuses images. Elles sont souvent, vous le voyez, regroupées par 3 ou 4, hein, et ça forme des figures. Et vous verrez que les chercheurs, au sein de ces figures, exploitent un certain nombre de procédés de mise en image, comme la figuration de la temporalité, l'extraction d'informations, la focalisation, que je vais exposer au fur et à mesure de mon analyse. Alors, pour mener à bien mon analyse, comment j'ai procédé ? Eh bien, j'ai procédé par une démarche, je vous l'ai dit, d'anthropologue de laboratoire. C'est-à-dire que j'ai passé plusieurs mois dans ce laboratoire, et j'ai notamment suivi les différentes étapes de l'élaboration de l'article, donc de cet article, en suivant le doctorant, dont c'était le sujet de thèse. Et j'ai également, évidemment, réalisé des entretiens avec les différents auteurs de cet article. Alors, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour ceux qui ne sont pas physiciens. Quel est le problème quand même traité dans l'article ? Alors, le problème traité dans l'article, c'est en fait l'absence de magnétisme, donc des couches de rhodium sur or, alors que ces phénomènes magnétiques sont pourtant prédits par la théorie. Donc, ce doctorant avait pour sujet de réaliser des échantillons de rhodium sur de l'or et d'obtenir des effets magnétiques. C'était son sujet de thèse, c'est ce qu'on lui avait donné. Il se trouve qu'au bout de 6 mois, il n'arrivait toujours pas à produire des effets magnétiques. Donc, comme vous le savez peut-être, en science, les thèses sont très limitées en temps. Il fallait qu'au bout de 3 ans, il ait obtenu quelque chose. Donc, ils se sont dit, oh ben, puisqu'on n'arrive pas à obtenir le résultat, eh bien, on va essayer d'expliquer pourquoi on n'arrive pas à obtenir ce résultat. Donc, le rhodium n'est pas magnétique quand il est sous forme d'un volume en 3D, on le sait. En revanche, la théorie prédit que si l'on parvient à créer une couche monoatomique de rhodium, c'est-à-dire une couche de rhodium qui n'a la hauteur que de 1 atome, si vous voulez, il devrait alors présenter des propriétés magnétiques qui sont évidemment importantes pour tous les composants après qu'on peut élaborer dans tout ce genre d'appareillage. Donc voilà le problème, c'est qu'il n'en trouve pas. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe pour vous donner une image ? Donc ce sont des tout petits échantillons, hein. On prend un substrat d'or et puis on dépose du rhodium. Et donc on essaye, évidemment, dans ce type de laboratoire, de faire croître couche après couche, c'est-à-dire couche atomique après couche atomique, ce rhodium sur de l'or. Alors croître, ce n'est pas comme les plantes, hein, ça ne pousse pas, mais c'est simplement essayer de déposer couche atomique sur couche atomique, le tout, évidemment, sous ultravide, parce que sinon, vous avez tout un tas d'interférences. Alors, l'explication proposée finalement en fin d'article, une des explications en tout cas, est que ce fait surprenant, puisqu'ils s'attendaient à avoir du magnétisme et qu'ils n'en ont pas eu, est explicable par l'apparition d'une interdiffusion, si vous voulez, d'un mélange des atomes de rhodium et d'or durant les premiers stades de croissance. Il n'y aurait pas de magnétisme, car pour qu'il y ait du magnétisme, il faudrait être capable de créer une seule couche, une monocouche atomique de rhodium qui soit parfaitement homogène, où il n'y ait que du rhodium. Donc, alors la partie, si je prends la partie introductive, bon, alors d'abord, évidemment, la publication s'ouvre, comme toutes les publications, sur un état de la question, en citant notamment les nombreux travaux théoriques qui ont donné lieu à la prédiction de l'apparition de ce magnétisme. Donc, les scientifiques rapportent également que d'autres scientifiques ont essayé de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire de déposer des couches de rhodium très fines, et que personne, pour l'instant, n'a réussi à obtenir de magnétisme de cette manière-là. Donc, ils le relatent. La publication se poursuit par la description du dispositif expérimental. En l'espèce, les chercheurs ont utilisé 4 dispositifs techniques. d'abord un microscope à effet tunnel, qu'on appelle STM aussi, et qui permet de réaliser des images topographiques, c'est le relief de l'échantillon, très fines, à l'échelle de l'atome, de la surface d'un échantillon. Et donc toutes les études dont je vais parler, là, sont faites sous ultravide. Hein. C'est une condition absolument nécessaire. Ils ont utilisé également de la spectroscopie OG, ou AES, qui permet de donner des informations chimiques sur l'échantillon. Ils ont également utilisé de la diffraction d'électrons lents, ou LID, qui permet cette fois-ci d'obtenir des informations structurales sur la surface des échantillons, grossièrement comment sont structurés les atomes sur cette surface. Et puis, évidemment, un dispositif qui permet d'enregistrer le magnétisme, le MOC. Et donc, ils décrivent également, dans cette partie, la préparation de l'échantillon. En fait, on a un substrat d'or sur lequel les chercheurs, pour déposer ces couches de rhodium, vont faire évaporer ce rhodium pour qu'il se dépose sur ce substrat d'or. Donc, jusqu'à ce point de l'article, on n'a aucune image, car l'ensemble de ces descriptions des dispositifs techniques ou de l'échantillon relève vraiment de l'ordre de ce qui est bien connu dans un laboratoire de physique des matériaux. Alors, la publication se poursuit par la présentation des résultats de la discussion. Et le premier point est donc consacré aux résultats obtenus au moyen du MOC, donc qui permet de mesurer le magnétisme. Donc, les scientifiques annoncent qu'ils n'ont pas réussi à observer le phénomène magnétique à température ambiante sur des échantillons qui comportent une monocouche de rhodium, et ils vont fournir une image de ce résultat. Voici l'image. Donc ici, vous avez une image qui est constituée en fait de la composition de trois images qui sont initialement distinctes au départ. Donc ce sont des courbes de MOC sur différentes configurations d'échantillons. Donc en haut, vous avez ici juste l'échantillon, c'est le rhodium sur l'or. Ici, vous avez juste le substrat d'or pur, sans rhodium. Et ici, vous avez un échantillon qui comporte non plus du rhodium, mais du cobalt sur l'or. Et vous allez voir que ça a une importance. Donc, dans l'économie argumentative, cette image correspond au point de départ, en fait. Elle n'a pas du tout un statut probatoire. Elle constitue littéralement le fait surprenant qu'il va s'agir d'expliquer. Mais les scientifiques restent prudents. C'est pourquoi cette image est intéressante à plus d'un titre. Elle ne fait pas que montrer le résultat. Qui consisterait simplement, si vous voulez, à montrer juste la première courbe, donc de rhodium sur or. Dans ce cas-là, il n'aurait mis que cette courbe-là. Les chercheurs visent, dans cette figure, à convaincre le lecteur de la véracité de cette affirmation. Et c'est pourquoi l'image a ici une fonction rhétorique. Afin de bien souligner l'absence de ce magnétisme, les chercheurs produisent un effet de contraste en ajoutant deux autres courbes. Donc, ils ajoutent ici la courbe de l'or pur, qui n'est pas du tout magnétique. Et donc, l'absence de magnétisme se manifeste par le fait que la courbe est presque plate. Et donc, vous voyez bien que cette courbe d'or pur est presque aussi plate, on va dire, que celle de rhodium sur or. Et pour bien enfoncer le clou, ils ajoutent également une courbe avec un échantillon où il y a du cobalt sur or. Et le cobalt est très fortement magnétique, ce qui se manifeste ici par un très fort dénivelé. Et donc, ils mettent ici cette courbe pour montrer une courbe où on voit un magnétisme très élevé. En réalité, ce qui apparaît implicitement dans cet article, mais que moi j'ai pu observer dans ce laboratoire, c'est qu'il a fallu, je vous l'ai dit, 6 mois pour obtenir simplement cette conclusion. 6 mois d'études tous les jours, le week-end y compris, pour finalement parvenir à l'absence, à la conclusion qu'il n'y a pas de magnétisme. Donc les scientifiques ont eu eux-mêmes, il y a eu beaucoup de discussions entre le doctorant et son directeur de thèse. Donc les scientifiques ont eu eux-mêmes beaucoup de difficultés à s'accorder sur l'absence de ce magnétisme. Donc ils sont tout à fait conscients que les relecteurs potentiels de l'article vont être également aussi peu convaincus. Donc c'est pour les convaincre, ils mettent cette... Parce que vous voyez bien que la pente, là, n'est vraiment pas tellement différente de celle où il n'y a pas de magnétisme du tout. Donc ces résultats négatifs donc, ont conditionné finalement la suite du travail expérimental, et c'est ce qui est décrit dans la suite de l'article dans Résultats et discussions. Ils vont commencer par étudier la croissance de rhodium sur or à température ambiante d'abord. Donc dans la section qui est consacrée à la croissance à température ambiante, les chercheurs proposent donc la figure 2 qui est composée en fait d'une série de 3 images. STM, donc microscopie à effet tunnel, images A, B et C, et puis d'une courbe. Donc je vais revenir sur ces 3 images qui constituent la figure 2. Donc, dans les images A, B et C, on trouve ce que j'appelle la figuration de la temporalité, une procédure qui est couramment utilisée dans les articles de ce type. En fait, elle consiste à donner à voir au lecteur les phases successives de la croissance du rhodium, couche après couche, qui semble, en tout cas à première vue, suivre une croissance normale. Et donc, les auteurs se réfèrent sur ce point-là à d'autres études. Donc là, au début, vous avez très, très peu de dépôts de rhodium, donc des petits plots très, très petits. Et puis, dans la deuxième, un recouvrement plus important de rhodium. Et ici, un recouvrement encore plus important. Donc, si on regarde dans le détail, donc il y a vraiment une dimension proprement narrative. On vous raconte une histoire, si vous voulez. Là, on est au début de l'expérimentation, et puis on progresse dans le temps pour avoir après un échantillon entièrement recouvert de rhodium. Alors, l'image de A, en fait, correspond à un stade précoce de croissance. Et on voit, si vous regardez un petit peu attentivement l'image, les petits plots blancs, en fait, on voit qu'ils ont, je suis désolée, la reproduction n'est pas très bonne, que les plots de rhodium ont déjà deux tailles distinctes. Certains, visiblement, sont très petits, ils ne semblent avoir qu'une couche atomique, et d'autres ont déjà deux couches. Et il est à noter ici que le texte principal et la légende, remplit une fonction de relais en complétant le sens de l'image. Dans le texte, on trouve une mesure précise du nombre de couches formant ces petits plots sur cette image, et le lecteur, en fait, peut voir sur l'image qu'effectivement, il y a des tailles hétérogènes, mais il ne peut pas voir, effectivement, quand vous regardez cette image, s'il y a une couche ou deux couches. L'image de B correspond à une phase où le recouvrement de rhodium est plus important et les plots de rhodium ont nettement grossi. Là encore, le texte, dans une fonction de relais, exerce une fonction de relais puisqu'il est précisé que selon les prédictions théoriques, dans l'image de B, les plots de rhodium sont désormais trop importants parce qu'ils sont déjà en trois dimensions pour envisager l'apparition de phénomènes magnétiques. L'image de C correspond à une phase de recouvrement encore plus importante. Et une analyse précise de cette image est proposée sous forme de courbe. Cette courbe ici que vous voyez, c'est en fait une procédure que j'appelle d'extraction d'information. Elle provient de cette image, en fait, et c'est un profil, en fait, de la topographie de l'échantillon le long de cette ligne. Donc cette courbe correspond à ce qu'on voit sur l'échantillon le long de cette ligne blanche. Et donc grâce à cette courbe, donc ce profil topographique, finalement, les chercheurs se rendent compte que la croissance de rhodium ne se fait pas couche atomique par couche atomique, comme elle devrait se faire, mais que visiblement, à certains endroits, on a déjà une troisième couche de rhodium. Là, ce sont des couches, première couche, deuxième couche, troisième couche. Donc, on a déjà la troisième couche, alors qu'à d'autres endroits, la première n'est même pas encore en cours de formation. Et que du coup, on n'arrive pas à obtenir une première couche tout simplement homogène, et que du coup, on ne peut pas obtenir de magnétisme, parce que pour avoir du magnétisme, il faudrait que la première couche soit homogène. Donc, l'ensemble de la figure 2, est-ce qu'elle peut être considérée comme une preuve? Eh bien, non. Pourquoi? Alors, pourquoi? Pourtant, la figure 2 que je vous ai montrée montre bien la croissance du rhodium, montre bien, en fait, que la croissance ne peut pas se faire couche par couche, mais qu'à certains endroits, il y a déjà une troisième couche, alors que la première n'est pas constituée. Or, pour obtenir du magnétisme, je vous l'ai dit, il faudrait une seule couche atomique qui soit intégralement au même niveau à un instant T. La conséquence est ici constituée par le fait qu'il n'y a pas de magnétisme. La raison est ici constituée par la figure 2 et le contenu propositionnel qu'on lui associe, c'est-à-dire qu'il semble impossible de faire croître une couche monoatomique de rhodium de manière uniforme à température ambiante. Alors, puisqu'on dispose d'une relation entre une raison et une conséquence, obtenue à l'aide d'un raisonnement rigoureux, avec un arrière-plan théorique qui entre en cohérence avec les résultats obtenus, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de preuve dans le cas de la figure 2 ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des problèmes du côté du dispositif opératoire. Premier problème qu'on trouve très souvent en physique des matériaux, mais en astrophysique aussi, c'est le problème de la flexibilité interprétative des images. En effet, devant une même image, les physiciens des matériaux peuvent donner de multiples sens à cette image. Et donc, évidemment, ceci est lié au mode de production des échantillons et des images. Et donc, on peut imaginer qu'un autre scientifique ou un autre groupe de scientifiques aurait interprété différemment les images que je vous ai montrées et donc que le contenu propositionnel aurait été différent et donc on n'a pas de preuves à ce titre-là. Deuxième problème, c'est le microscope utilisé, le STM. Donc c'est un microscope qui a permis en fait l'ouverture du champ des nanosciences, hein, parce qu'il permet, c'est le premier microscope qui a permis de voir à l'échelle de l'atome, on va dire. Donc ce microscope est très utile, mais en fait, il ne permet de voir que des informations très 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 locales sur un échantillon. quelques centaines d'atomes. Alors que l'échantillon, même s'il est tout petit quand on le voit, il en comporte des milliards. Donc à chaque fois, c'est est-ce que votre résultat est valide sur l'ensemble de l'échantillon. Alors dans la communauté, dans les communautés des relecteurs, j'ai vu pas mal de rapports de relecteurs, on voit très souvent ce genre de critique. Vos images ne sont pas assez représentatives. Ce sont des images STM trop locales. Alors bien sûr, il y a un autre problème de cette figure 2, c'est que c'est une figure qui est produite à température ambiante et les relecteurs pourraient estimer que ce qui prévaut à température ambiante n'est pas généralisable à d'autres températures. Ainsi, les critères de délimitation qui encourent en physique des matériaux font qu'ici on peut parler à la limite d'éléments de preuve, mais certainement pas d'une preuve. Donc les chercheurs continuent leur étude. Par analogie avec la croissance de cobalt sur or, donc qui est très fortement magnétique à basse température et qui permet d'obtenir une monocouche atomique homogène de cobalt, ils se disent que s'ils descendent dans la température, eh bien, eux aussi vont peut-être pouvoir obtenir, non pas avec le cobalt mais avec le rhodium, cette monocouche tant espérée de rhodium. Donc ils passent à des basses températures. Ils vont faire plusieurs essais. C'est la figure 3. Donc les images A, B et C de la figure 3 sont également obtenues avec un STM et correspondent à des dépôts extrêmement minces, toujours pareil, de rhodium, mais cette fois-ci à basse température. Ici encore, vous avez le même procédé de présentation des images, une figuration de la temporalité, c'est-à-dire que là, vous êtes à la première couche, un dépôt plus important et un dépôt encore plus important. Sur certaines de ces images, vous voyez que les scientifiques ont procédé à l'inclusion d'images plus petites afin de montrer des détails très très précis. Alors, l'image 3 permet de voir, selon les scientifiques, que la croissance, quand on fait de la croissance à basse température, on voit apparaître ce qu'ils appellent des îlots, mais aussi des trous. En fait, ce que vous voyez, tous les petits points noirs que vous voyez, ce sont carrément des dépressions, des trous. Et pour montrer qu'il s'agit bien de trous, ils vont agrandir, c'est pour ça qu'ils ont agrandi en focalisant ici une de ces parties, pour montrer qu'il y a effectivement bien des îlots, et puis il y a, juste à côté des îlots, il y a formation de trous. Et donc, le texte ici fonctionne encore comme relais et fait état de calculs sur ces échantillons qui visent à montrer que ces îlots sont toujours associés à des trous. Chaque fois qu'on trouve un îlot, on trouve un trou pas très loin ou juste à côté. En augmentant légèrement le grandissement, c'est l'image 3, le dépôt pardon, de rhodium, c'est l'image 3B et 3C, eh bien, on voit toujours cette formation d'îlots et de trous, et ce phénomène a l'air de perdurer. Donc il s'agit de se pencher donc maintenant pour les scientifiques sur la composition de ces îlots et de ces trous. De quoi sont faits ces îlots et ces trous? Donc la hauteur des îlots qu'ils ont calculés ne correspond ni à celle d'îlots d'or, si ce n'est pas de l'or, ni à celle d'îlots de rhodium. On connaît la taille d'un atome de rhodium et d'un atome d'or. Alors, de quoi sont constitués ces îlots? C'est ce qu'ils se demandent. Est-ce qu'il s'agirait d'une substance qui aurait été introduite involontairement? On est sous ultravide. Alors cette question soulève le problème évidemment de l'existence d'une source d'erreur potentielle, à savoir ici une contamination non voulue par une substance indésirable. Pour éliminer ce problème, les scientifiques prennent soin de rappeler qu'ils font des tests systématiques grâce à la spectroscopie OG durant la phase des préparations des échantillons et que visiblement, sur leurs échantillons, il n'y a que de l'or et du rhodium. Donc en raison de la présence de dépression dans le substrat d'or et de la présence d'îlots, et puisque visiblement il n'y a rien d'autre sur ces échantillons que de l'or et du rhodium, les scientifiques en viennent à émettre l'hypothèse qu'en fait les îlots sont constitués par un échange d'atomes d'or et de rhodium. Si vous voulez, les atomes d'or sont remontés un petit peu et sont remplacés par des atomes de rhodium qui vont dans le substrat, et que les dépressions sont induites par une substitution d'atomes d'or par des atomes de rhodium. Alors pourquoi la figure 3 n'est en son tour pas une preuve? Eh bien, pourtant, elle montre, la figure 3 dans son ensemble, montre qu'il y a relativement clairement qu'il semble y avoir une interdiffusion d'or et de rhodium, et que de ce fait, puisqu'on n'a pas de couche monoatomique de rhodium, eh bien, tout magnétisme est exclu. Donc la conséquence est toujours constituée par le fait qu'il n'y ait pas de magnétisme, et la raison est constituée par la figure 3 et le contenu propositionnel qu'on lui associe. Les trous et les îlots correspondent à un échange d'atomes entre le substrat d'or et le dépôt de rhodium. Il y a donc bien eu il semble y avoir une interdiffusion au premier stade de croissance du rhodium. Alors ici, toujours les mêmes problèmes qui apparaissent du côté du dispositif opératoire, toujours l'instrument, le STM, qui délivre toujours des informations trop locales. De surcroît, comme vous avez pu noter, il n'y a pas de courbe cette fois-ci, et les chercheurs ne sont pas parvenus à réaliser de profils d'extraction parfaitement convaincants. Donc c'est pour ça qu'au lieu de mettre un profil, ils ont mis une image agrandie. Ils ne disposent que d'informations qualitatives et pas vraiment d'informations quantitatives. De plus, du côté de la communauté scientifique, on pourra également leur faire remarquer que s'il y a un phénomène d'interdiffusion hors rhodium, il faudrait que cela soit également observable en changeant légèrement les conditions de température. Donc, les scientifiques vont éprouver le besoin de renforcer ces affirmations relatives à la présence de dépressions et d'îlots. Donc, ils vont montrer sur d'autres échantillons, c'est la figure 4, que c'est toujours le même phénomène qui est observable, mais avec des échantillons qui sont préparés légèrement, de façon légèrement différente. C'est-à-dire qu'on dépose le rhodium à basse température, ici à 100 degrés Kelvin, et puis après, on fait remonter la température à 300 degrés Kelvin. Donc, la figure 4 constitue un élément de preuve renforçateur par rapport à la figure 3. C'est le même phénomène de dépression, c'est-à-dire de trous associés à des îlots, qui est montré dans la figure 4A et 4B, mais à une température différente. L'image 4B, ici, en fait, un agrandissement de l'image 4A, c'est-à-dire une focalisation, afin de bien percevoir tout à fait clairement ces îlots et puis ces trous, ces petits trous noirs qui sont à côté. Alors, visiblement, les phénomènes d'interdiffusion n'ont lieu que pour des couches de rhodium très minces et donc au début de la croissance du rhodium. Dès que le substrat est recouvert, donc là on est à des couches plus épaisses, le phénomène va s'interrompre. C'est ce que montre la figure 5. De nouveau deux images STM d'un recouvrement de rhodium, mais cette fois-ci beaucoup plus important, observé de nouveau à des températures différentes. On ne voit plus îlots et dépressions, on voit juste simplement un recouvrement de plots de rhodium et on ne voit plus vraiment les trous. Alors, reste à montrer pour les scientifiques dans cet article, et ceci est crucial pour l'argumentation, que quelle que soit la taille des couches et de rhodium déposées, fine ou non, l'échantillon reste chimiquement stable et qu'on ne trouve, c'est très important pour eux, que de l'or et du rhodium sur ces échantillons et rien d'autre. Pour l'or, les mesures, je vous l'ai dit, soigneuses sont faites avec de la spectroscopie OG et puis du LIDE, et elles sont faites au début du processus. Et donc, la spectroscopie OG et le LIDE sont deux techniques différentes qui permettent d'analyser l'échantillon d'un point de vue chimique et d'un point de vue structural. Pour le rhodium, les chercheurs s'appuient également sur la spectroscopie OG pour analyser chimiquement l'échantillon. Donc, on va voir, ils produisent cette figure 6. Donc, la composition de l'échantillon va rester stable entre la température de 100 degrés Kelvin et 300 Kelvin, et quel que soit le recouvrement de rhodium envisagé, soit des fines couches ou des couches beaucoup plus importantes, c'est ce que montre la figure 6. Donc ici, vous avez en haut un spectre OG de l'or pur, tout simplement, et puis en dessous, vous avez après les dépôts de rhodium successifs, donc on augmente le dépôt de rhodium. Les pointillés correspondent à une température de 100 degrés Kelvin et la courbe pleine à chaque fois à 300 degrés Kelvin. Donc ici, l'image a également une fonction rhétorique, déjà évoquée à propos de la figure 1, parce que le fait de mettre en parallèle ces spectres sur la même image permet de saisir en fait d'un seul coup d'œil que pratiquement rien ne change finalement, si ce n'est la quantité de rhodium. Et ça se voit, pour ceux qui ne le connaissent pas, par le fait que le pic de rhodium s'accentue ici. On détecte le rhodium ici parce que le pic s'accentue de plus en plus. Plus on en dépose, plus le pic est grand. Représenter en fait ces courbes de manière séparée, au nombre qu'une, n'aurait pas du tout produit le même effet sur le lecteur. Et ici, le lecteur est relativement convaincu en disant « bon, il n'y a bien que de l'or et il n'y a bien que du rhodium ». Donc, pour conclure cet article, les chercheurs proposent leur version des faits. Donc, deux versions. Pour les dépôts à température ambiante, l'absence de magnétisme est expliquée par le fait qu'en tout cas à température ambiante, il est impossible dans ces conditions de produire une couche, une monocouche atomique de rhodium homogène. Pour les basses températures, l'absence de magnétisme est en définitive expliquée par l'existence d'une interdiffusion, d'un échange entre atomes de rhodium et d'or dans les premiers stades de croissance. Et donc ce type de phénomène a déjà été modélisé dans une autre étude, mais non pas sur du rhodium sur de l'or, mais sur du rhodium sur de l'argent. Et ils estiment que l'argent est suffisamment proche au point de vue électronique de l'or, que cela serait un argument de plus, finalement, en plaidant pour l'explication proposée. Voilà quelques remarques maintenant conclusives pour revenir à mes traits de départ. Donc, aucune image contenue dans l'article, prise isolément ou combinée sous forme de figure, ne peut constituer une preuve. Chaque image peut constituer tout au plus un élément de preuve. Pourquoi ? Le trait qui pose problème, en tout cas en physique des matériaux et dans ce genre d'études, c'est le dispositif opératoire. C'est lui, en fait, qui met en péril le respect de cet autre trait que constitue la contrainte de vérité. Qu'est-ce qui est problématique dans les dispositifs opératoires mobilisés en physique des matériaux ? Alors, quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais ce sont d'abord les êtres humains eux-mêmes. En effet, les savoir-faire tacites, ou non d'ailleurs, nécessaires pour effectuer ce type d'études, sont présents tout au long des recherches menées dans les préparations des échantillons, très difficile de préparer en échantillon, très souvent, dans l'utilisation de ces microscopes, par exemple, dans l'interprétation des images. Bref, pour avoir séjourné dans ces laboratoires, je peux vous dire que les chercheurs ne sont pas égaux face à ces savoirs. Certains ont vraiment... Dans ces laboratoires, il faut vraiment avoir une habileté manuelle, par exemple, et on a beau être un grand théoricien, si on n'a pas cette habileté manuelle, on n'est pas un bon chercheur, en tout cas dans ce laboratoire en physique des matériaux. Donc évidemment, ces savoir-faire sont très variables d'un individu à un autre, et du coup, les résultats varient évidemment d'un individu à un autre. Deuxième point, c'est les dispositifs techniques. Les instruments fournissent soit des informations très locales, comme le STM, au niveau de quelques atomes, soit des informations globales, mais en général, pas les deux en même temps. De surcroît, ces instruments sont difficilement maîtrisables et source de nombreux effets. Par exemple, maintenir un ultravide, ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile. Un ultravide pendant plusieurs heures, c'est quelque chose qui pose problème. Il y a donc beaucoup d'incertitudes liées aux dispositifs opératoires et on aboutit à ce que certains sociologues des sciences relativistes ont appelé la flexibilité interprétative des données. Effectivement, si vous restez longtemps dans ce laboratoire, et même si vous restez qu'un jour, dès que vous êtes autour d'un microscope, il passe parfois 3 heures à interpréter des images. De discussions acharnées, ils ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'on voit sur une image. Donc les physiciens des matériaux ne sont pas du tout naïfs. Ils sont tout à fait conscients de la fragilité de leur dispositif opératoire et de l'existence de cette flexibilité interprétative. Et ils visent à réduire cette flexibilité et à donner des résultats robustes, évidemment. Alors par robustesse, je prends la définition du philosophe américain William Winsatt, la robustesse d'un résultat expérimental tient au fait que l'on mobilise dans le cours du travail scientifique de multiples moyens d'investigation indépendants. La robustesse consiste à concevoir un faisceau d'éléments de preuve qui soit le plus convaincant possible. Donc la métaphore qui est pertinente pour caractériser le travail expérimental, ça n'est pas celle de la chaîne qui vaudrait ce qu'elle vaut par son maillon le plus faible. Il existe plusieurs autres métaphores plus adéquates pour rendre compte du travail des scientifiques au quotidien qui cherchent à obtenir une robustesse de leurs résultats. Et moi, je préfère la métaphore du câble ou du réseau, tous deux constitués de fils entrelacés. Chaque fil accroît la robustesse du câble ou du réseau. Et le fait qu'un fil casse, c'est-à-dire qu'un résultat soit invalidé, ne signifie pas du tout que le câble, le câble ou le réseau va casser pour autant, ne va pas casser parce qu'un fil casse. Donc les images contenues dans l'article que j'ai analysé constituent finalement des éléments de preuve centraux d'un tel faisceau robuste. Alors le faisceau de preuve, il est constitué par quoi ? Évidemment pas seulement par les images. Il est constitué par le recours à des stratégies expérimentales qui ont bien été étudiées par un philosophe des sciences qui s'appelle Franklin, comme le fait de calibrer ses instruments, le fait de recourir à des statistiques. Enfin, il y a une dizaine de stratégies que les scientifiques emploient pour essayer de se convaincre de la véracité de leurs résultats. Évidemment, par la cohérence avec les théories admises dans un domaine, ici la physique, relativement évidemment au fonctionnement des instruments, il faut connaître le fonctionnement des instruments, et puis les théories admises dans le champ scientifique considéré. Le recours à des simulations, à des prédictions calculées. Et puis, surtout, dans ce type de laboratoire, le recours à l'inter-instrumentalité. Et qu'est-ce que j'appelle inter-instrumentalité ? Eh bien, c'est le fait de recourir à des instruments conçus sur des principes physiques relativement différents qui, de ce fait, vont apporter un type d'information physique spécifique à chaque instrument à propos des échantillons retenus. Alors, par exemple, dans le cas que je vous ai présenté, il y avait des informations d'ordre chimique, des informations d'ordre structural, comment sont positionnés les atomes, topographique, électronique, magnétique. Enfin, vous voyez, on a tout un tas d'informations différentes. Évidemment, chaque dispositif, donc là, dans l'article analysé, je vous dis chimique, structural, topographique et magnétique. Évidemment, chaque dispositif instrumental est susceptible de produire des artefacts, c'est-à-dire des effets indésirables, et comporte des limites intrinsèques. Mais ceci dit, le fait d'obtenir des informations convergentes à propos des échantillons étudiés à l'aide de ces dispositifs permet de réduire notablement la flexibilité interprétative des images et d'accroître la plausibilité des résultats. Donc ces dispositifs permettent d'obtenir des images qui sont en fait les seuls points de contact avec une réalité supposée. Sans ces images, les scientifiques n'ont aucun pratiquement point de contact avec la réalité atomique. C'est pourquoi ces images sont vraiment capitales dans l'argumentation générale de l'article. J'ajoute que l'interinstrumentalité, c'est vraiment une des stratégies majeures en physique des matériaux pour constituer en fait ces faisceaux robustes, et que la plupart des articles en physique des matériaux, l'argumentation est structurée autour de cette notion d'interinstrumentalité. Ceci dit, et je l'ai vu notamment dans beaucoup de rapports de référis, de relecteurs, la communauté scientifique peut toujours trouver que le faisceau d'éléments de preuve constitué par les images n'est pas assez solide et qu'on devrait, par exemple, rajouter une procédure instrumentale. Les référis demandent très souvent, quand ils ont à référer un article en physique des matériaux, qu'on rajoute, par exemple, une étude en STM, en microscopie électronique à transmission, enfin qu'on rajoute des études. Du coup, évidemment, la vérité produite à l'issue de ce type d'étude est toujours provisoire et révisable. Et on comprend bien pourquoi, si je reviens au début de mon propos, pourquoi l'image unique d'une soucoupe volante, considérée comme une preuve par un ufologue, paraît de toute façon bien insuffisante à un scientifique rompu, par exemple, à des procédures instrumentales. Voilà. C'est mon propos. Merci.
La notion de preuve n'est pas évidente.
Non.
Mais travailler sur la preuve, c'est vraiment, en plus, je te remercie parce que je suis complètement néophyte, je ne suis absolument pas physicienne. Bon, dans le public, je pense qu'il y a des physiciens et d'autres scientifiques, et c'était d'une clarté très impressionnante. Et en fait, ça pose la question de... Est-ce que ça pose la question de la notion de fraude, ou on va jusque-là?
Eh bien, oui, bah. d'erreur, on va dire. Après, d'accord. Entre l'erreur et la fraude, il y a un pas. Je pense que, oui, ça peut poser la question de la notion de fraude. D'autant plus qu'il faut savoir qu'en physique, on nous vante beaucoup, là, en ce moment, pour évaluer les chercheurs, le fait d'être publié dans des revues,
des référés,
etc. Mais par exemple, en physique, même des très grandes revues, à part peut-être Science, Nature, bon, c'est pas que des revues de physique, là, mais les grandes revues de physique ont beaucoup de mal à trouver des référis, parce que ce sont des activités qui sont faites, qui ne sont pas rémunérées, qui prennent beaucoup de temps si vous voulez le faire sérieusement. Donc, soit elles n'en trouvent pas, soit c'est fait par-dessus la jambe, on ferme les yeux sur certaines... J'ai vu des articles, effectivement, où il y avait des la fraude, et on...
Quand tu vois passer les articles, tu peux pas t'empêcher de les analyser, non? Je veux dire, quand tu lis les articles, tu as quand même maintenant une forme de pensée qui fait que tu es capable de voir dans un article quand tu es... Parce que ça, c'est quand même aussi comme le décryptage.
Je suis capable de détecter quand, mettons par exemple là, si je reprends l'image où il y avait une focalisation et pas de courbe. Bon, je le sais parce que j'étais dans le laboratoire, mais même si j'avais pas été dans le laboratoire, je me dirais que s'ils ont pas mis de courbe, c'est qu'ils ont pas réussi à trouver une belle courbe, bien convaincante.
D'accord.
Voilà, par exemple. Et donc ils ont mis ça faute de mieux.
D'accord.
Que s'ils avaient une belle courbe, ils auraient mis la courbe. Ça, c'est sûr.
Et
pas une fraude là.
D'accord. Oui, oui. Non, c'est un petit... On pousse un peu le...
Pousse un peu.
Voilà. Mais est-ce que... Bon, dans l'histoire, il y a des exemples, bien entendu, de procédés qui n'ont pas trouvé de preuves tangibles et qui ont quand même marché. Hein. Et est-ce que tu penses que cette analyse, on peut l'adapter à d'autres disciplines?
Oui, oui, oui.
Absolument. Hein.
On peut l'adapter... Bon, je parle astrophysique, là maintenant en ce moment je suis en pharmacologie, mais ce qui est intéressant, c'est que je travaille avec des juristes aussi,
Et en fait, on peut très bien... Alors, ils ont tout un arsenal pour définir les preuves dans le monde juridique, mais on peut aussi la décliner, l'amender, essayer de l'adapter. Parce que moi, en fait, j'étais très étonnée, finalement, en philosophie des sciences, tout le monde parle de preuves, mais c'est toujours dans des domaines très, très spécifiques. Personne ne se dit, il doit y avoir quand même quelque chose de commun entre une preuve en logique, une preuve en maths, une preuve en physique, une preuve en pharmacologie. Il doit quand même y avoir, pour moi, quelque chose qui... un résidu qui doit rester un petit peu commun, mais en général, on ne trouve pas beaucoup de... À part Fernando Gil, dont je recommande vraiment l'ouvrage, vraiment, c'est un historique du concept de preuve, à partir, c'est un terreau juridique, d'ailleurs, au départ, et voir comment, petit à petit, c'est devenu en science, quoi, je veux dire, mais c'est vraiment intéressant, il y a peu de gens qui s'intéressent à des choses transdisciplinaires, on va dire.
Voilà, c'est ce que j'allais te demander, depuis quand on travaille sur la notion de preuve? En histoire des sciences,
on travaille sur la notion de preuve dans des domaines à chaque fois. En logique, par exemple, il y a de littérature très importante sur la preuve en logique. Il y en a en maths aussi, sur la preuve proprement dite, finalement, en histoire des sciences, pas tellement, à part pour souligner des fraudes. Quand on a l'histoire de fraude, on aborde forcément de manière indirecte la preuve.
Merci beaucoup. Merci. Des questions?
Oui, justement, à propos de cette histoire de preuve, moi, il me semble que le mot preuve, ça va un peu à l'encontre des sciences, en tout cas en physique, puisque les sciences, c'est toujours remettre en cause ce qui a été émis comme hypothèse avant. Donc, on considère qu'il y a une théorie qui fonctionne, et puis qu'il peut très bien y avoir quelque chose qui va la contredire. Donc, finalement, la preuve, c'est pratiquement impossible à apporter en sciences. Physique, en tout cas.
Enfin, dans les sciences expérimentales, je suis faillibiliste, je pense qu'on peut voir que des éléments de preuve, mais on n'aura jamais la preuve comme en logique ou en mathématiques, avec un grand P, on va dire. Donc on peut se contenter que de ça. Mais il y a quand même quelque chose, je veux dire, ça relève quand même de la preuve, même si c'est qu'un élément de preuve, parce qu'on cherche quand même d'abord la vérité. On espère que par exemple, là, dans cette publication, ils espèrent avoir expliqué de manière correcte le phénomène. Et puis évidemment, après, le terme de vérité, ça peut avoir différents sens. Ça peut être une adéquation au réel, mais ça peut être aussi une vérité pragmatique. C'est vrai parce que ça va marcher. Et en physique des matériaux, on trouve souvent ça. Je veux dire, c'est quelque chose... Bon, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait comme ça que ça se passe, mais de toute façon, ça marche parce qu'on a déposé un brevet et puis voilà, ça marche. C'est à peu près ça, quoi.
Et puis, j'ai peut-être pas bien compris, mais moi, j'ai l'impression que ce qu'ils prouvent, c'est pas exactement le sujet. C'est-à-dire, ils veulent prouver au début l'absence de magnétisme quand on met une couche d'or. Mm-hmm. Finalement, ce qu'ils prouvent, c'est qu'il n'y a pas possible d'avoir une couche.
Voilà.
Mais ils prouvent pas l'absence de magnétisme.
Non. Déjà, ils ont mis 6 mois à s'accorder, et ce pauvre doctorant qui avait donc un sujet infaisable, il faut quand même savoir là que c'était donc un sujet infaisable, il n'avait pas le choix. Donc, ce pauvre doctorant s'est arraché les cheveux, et effectivement, ils se sont d'abord, pendant 6 mois, la chose a été, est-ce qu'on a du magnétisme, est-ce qu'on en a un tout petit peu, ou est-ce qu'on n'en a pas du tout? Donc, ça a été 6 mois, avec des accusations, tu es un incapable, tu n'as pas les savoir-faire manuels, etc., tu ne sais pas faire, enfin, tout ce qu'on a pu entendre, puis finalement, ils en sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas possible, et donc, il fallait apporter une explication à pourquoi ce n'est pas possible, en tout cas dans ces conditions. Ça serait finalement possible si on descendait à des températures encore plus basses, mais obtenir des très 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 basses températures, le zéro absolu, ça serait peut-être possible là, mais là c'était pas possible dans le laboratoire.
D'autres questions? Vous parlez entre vous, vous avez peut-être des questions à poser.
Moi, j'ai une question, c'était dans les faisceaux de preuves, il y a le fait de la reproductibilité de l'expérience et de le fait qu'elle soit réalisée par d'autres personnes.
Oui. Alors, dans les stratégies de Franklin que j'ai passées très, très vite, évidemment, il y a la reproductibilité de l'expérience. Ceci dit, ça dépend de ce qu'on appelle reproductible. Parce que dans ce type de laboratoire, stricto sensu, rien n'est vraiment reproductible. Je veux dire, c'est une fois que l'échantillon est passé au STM, il est détérioré. Il faut le refaire. Donc, quand vous évaporez de nouveau du rhodium sur l'or, évidemment, c'est toujours quand même différent. Donc, la reproduction, comme on l'entend, c'est pas exactement la même chose. Et c'est un des problèmes. Pour obtenir une image publiable dans ce type de laboratoire, il faut parfois 6 mois. recommencer pour se dire, parce que vous avez tout un tas d'artefacts, de la contamination, enfin, vous avez tout un tas de choses, c'est absolument épouvantable. Ce sont vraiment des gens très très patients. Quand on dit le dur labeur du travailleur de la preuve, ben, ça correspond bien à ce qui se passe en physique des matériaux. Mais c'est vrai que la reproductibilité, je dis ça parce qu'en pharmacologie, c'est plus facile à obtenir. En un certain sens, je suis dans un laboratoire de pharmacologie, c'est quand même un peu plus facile qu'avec ces échantillons, parce que quand vous examinez des échantillons vraiment au niveau atomique, c'est très très difficile d'obtenir la même, normalement vous devriez avoir la même configuration, mais il y a toujours des éléments qui font que vous n'avez pas exactement la même. Donc c'est, en pharmacologie, ça me semble un peu moins problématique, même s'il y a beaucoup de problèmes, mais effectivement, il y a le fait que ce soit reproduit.
Oui, parce que souvent, dans l'histoire des sciences d'expériences cruciales, il y a le fait qu'on mettait souvent en avant qu'il fallait que d'autres personnes puissent refaire l'expérience qui a été proposée, qui posait un problème, pour savoir si c'était...
Ça, c'est l'histoire des sciences. Maintenant, personne ne va s'amuser. Par exemple, si on a une étude avec un problème, prenons celle-ci, personne ne va s'amuser à faire exactement la même. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas valorisé socialement dans les publications. Ça ne coûtera, votre article aura beaucoup moins de chances d'être pris si vous essayez, alors à moins que vous attaquiez un prix Nobel, ça c'est sûr, une fraude d'un prix Nobel, voilà, vous allez être publié. Mais dans ce genre d'études, personne ne va essayer de prouver que ce doctorant a eu tort, va essayer de refaire ça, personne, vraiment personne. Ils vont essayer de faire des choses équivalentes sur de l'argent, etc., mais ils ne vont pas refaire ça. Parce que simplement, si vous le faites et que vous cherchez à publier, on va vous dire que ce n'est pas intéressant, vous ne passerez pas. Et comme on est évalué sur les publications, eh ben du coup, on ne le fait pas.
Donc, ça pose le problème des résultats d'expérience et de...
Exactement. Et il est toujours, quelle que soit la discipline, en biologie, en physique, quelle que soit la discipline, il est toujours très défavorable pour un chercheur d'essayer de reproduire, à l'identique, je parle, une expérience d'un autre. Parce qu'actuellement, au niveau de la publication, ça n'est pas du tout valorisé. À moins, une fois de plus, de s'attaquer à... une étoile, quelqu'un de très connu, là, ça passera, mais sinon, non.
Autre question ?
Donc, c'est vraiment passé sur la confiance, maintenant.
Oui, alors, moi, je ne vais pas forcément poser de questions, juste avoir un état d'esprit simpliste et d'enfant, on va dire. Donc, si j'ai bien compris le truc, en admettant qu'il y ait reproductibilité de l'expérience... d'essayer de mettre des monocouches, et en supposant que, suite à des expériences antérieures, ils aient validé le fait que cette monocouche de rhodium devait posséder des propriétés magnétiques, ils s'obstinent à vouloir la créer, à vouloir observer ce magnétisme, et en fait, ce qu'ils découvrent, donc ça, c'est ma vision simpliste, hein, ce qu'ils découvrent, c'est qu'ils ne peuvent pas la créer, et ils découvrent le fait qu'il y ait diffusion. Et donc, c'est ça qui me fait assez rire, c'est qu'ils sont obnubilés par ce que prévoit la théorie ou un modèle, et en fait, ils viennent de découvrir quelque chose, enfin, découvrir entre guillemets, quelque chose sur les monocouches qui ne peuvent pas se créer parce que...
Oui,
c'est pas un peu ça, non ?
Si, ils sont omnibilés par la théorie, là. Parce qu'ils voulaient valider cette théorie. Personne n'a réussi à faire ça pour l'instant. Donc ils voulaient, ils pensaient que c'était possible aussi, hein, je dirais, c'est pas tout qu'ils voulaient. Le directeur de thèse pensait que c'était faisable, il pensait que ça posait pas de problème, parce qu'avec le cobalt, par exemple, ça pose aucun problème de faire une monocouche de cobalt, hein, vraiment aucun. Donc ils pensaient valider une théorie. Et évidemment, le pauvre doctorant a pu... beau faire, il a démonté tous ses instruments, il a fait tout démonter, ça a été une horreur, hein, vraiment, je veux dire, franchement, une horreur, et puis ça ne marche pas, je veux dire, et donc ils ont cherché une explication.
Et donc, de façon fortuite, ils avancent dans la compréhension de la matière sur ce point très spécifique.
Voilà.
Et c'est comme ça que la science progresse, finalement.
Oui, tout à fait. Mais bon, mettons que c'est pas très valorisant pour un doctorant de faire une thèse sur quelque chose qui ne marche pas.
Mais en histoire des sciences.
Oui, il y a la poste et tout, mais c'était vraiment un problème dans le laboratoire, parce que c'est très rare de faire une thèse sur quelque chose qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, on le laisse de côté, on montre ce qui marche en général.
En fin de compte, par rapport à ce qu'ils souhaitaient, ils ont trouvé quelque chose.
Oui, bien sûr, ils ont une explication.
C'est peut-être ponctuel, mais c'est un truc de plus... parmi l'ensemble des savoirs. Enfin, je vois ça comme de façon simpliste. Hein, mais
non, mais dans ce genre de laboratoire, ce qu'il y a derrière, c'est de la physique appliquée. Et donc là, vous ne pouvez pas éventuellement, dans 10 ans, déposer un brevet pour dire que, je sais pas, moi, qu'on trouve une utilité à l'interdiffusion d'atomes. Enfin, ce n'est pas encore pour demain.
Oui, et on dit aussi en histoire des sciences, pour avoir écouté pas mal de conférences, je parle en général, que la notion d'erreur en histoire des sciences, il faut aussi en parler. Voilà. La notion d'erreur en histoire des sciences, il faut aussi en parler. L'histoire des sciences apparaît comme ça, comme quelque chose qui est sorti ex nihilo, avec aussi tous ces savants dont on parle et qui ont découvert des théories, alors que la théorie, bien sûr, elle avait aussi des origines. On fait quelquefois que synthétiser les penseurs d'avant. La notion aussi précurseur en histoire des sciences, c'est complètement à bannir, tu le sais. Donc la notion d'erreur, c'est quelque chose dont on peut parler en histoire des sciences. Mais ce que tu dis est intéressant, parce que est-ce qu'on peut parler de la notion d'erreur dans les sciences dures? Comment parler sans que ça génère des problèmes?
Alors moi, il y a un philosophe, pour ceux que ça intéresse, mais c'est en anglais, qui s'appelle Juraon, qui s'intéresse qu'aux erreurs scientifiques. Alors, dans l'histoire, il est philosophe et historien des sciences, comment il prend Juraon. H-O-N, et il fait une classification des erreurs. Ouais. Et c'est vraiment intéressant à tous les niveaux d'une expérimentation ou d'une observation. C'est vraiment très, très intéressant. Et moi, j'avais lancé, en partant de cette classification, donc qui est très précise, des étudiants, puisque je suis responsable des stages en anthropologie, j'ai envoyé mes étudiants avec, pour mission, de repérer dans différents laboratoires à l'Université Louis Pasteur les erreurs. Tout de suite, ça a fait... Franchement, je cherchais pas mal, mais ça a fait un tollé parmi les scientifiques. Je dis, mais enfin, c'est ce que vous faites à longueur de journée. Vous essayez de dépister vos propres erreurs pour vous assurer. Alors, en quoi ça, c'est injustifiable de regarder comment vous faites? Je veux dire... Mais alors, tout de suite, c'était erreur, fraude. Alors là, vous voulez parler des fraudes? Je dis, mais non, on ne va pas parler des fraudes. On veut parler de comment vous calibrez, comment vous faites des statistiques quand vous estimez que c'est bon, etc. Comment vous estimez que c'est bien reproduit, etc. C'était de ça dont on voulait parler. Pas des fraudes, qui sont très, très peu nombreuses, finalement.
Alors qu'en fait, dans le cadre, par exemple, de la fête de la science, les chercheurs sont très contents quand le grand public va visiter les laboratoires. C'est une découverte pour le grand public d'aller visiter un laboratoire de science, parce que ça reste aussi quelque chose d'emblématique et quelque chose, une espèce de cache secrète. Et oui, c'est étonnant. Donc là, c'est aussi parce que, entre guillemets, ils positivent leur science. Il n'y a rien à faire.
Mais moi, je trouve que de montrer qu'on est très ingénieux pour débusquer ses propres erreurs, c'est très valorisant. Voilà. Enfin, moi, je ne vois pas en quoi c'est... Je comprends toujours pas pourquoi, en quoi c'est dévalorisant. C'est un point de vue.
Oui, en même temps, c'est ce que je me disais. Enfin, j'ai entendu quand même souvent parler au niveau des publications où il y avait des fraudes quand même plus ou moins admises. C'est-à-dire un même graphe, on va changer juste l'échelle en ordonnée, on va avoir une droite au lieu d'avoir une courbe et on en déduit quelque chose de complètement différent. Alors, est-ce qu'ils sont pas non plus conscients quand même que des fois leurs résultats sont... façon discutable et...
Bien sûr qu'ils en sont conscients. Attendez. Bien sûr. Comme quand je leur demandais qu'est-ce que c'est qu'une belle image en physique des matériaux, alors la version officielle, c'est celle qui est la plus propre. C'est la seule image que j'ai réussi à produire en 6 mois et qui soit correcte. Donc, quelle validité ça a finalement, une image en 6 mois, alors que les autres, elles sont pleines d'artefacts. Mais ce qui réduit ça, c'est quand même l'interinstrumentalité. Parce que chaque dispositif est particulier. Et c'est vrai que quand on arrive à obtenir des résultats qui vont dans le même sens, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir liés autour de l'instrument et de la préparation de l'échantillon, ça quand même, ça renforce. Vraiment, ça renforce très, très fortement. C'est pour ça qu'il s'appuie si souvent. Je voulais juste vous montrer la courbe. Vous parliez de changer de... Je ne sais pas si vous l'avez noté, je n'ai pas insisté.
Mais déjà, il n'y a pas d'échelle sur les...
Attendez, je cherche juste la première. Regardez celle-là. Ils l'ont agrandi 10 fois. Normalement, ils auraient... Et celle-là, une fois. C'est pas pour rien, c'est une fonction rhétorique. Il voulait vraiment montrer. Sinon, s'il l'avait pas agrandi, on aurait eu l'impression qu'il n'y avait aucune différence. Là, on voit qu'il pouvait y avoir un léger doute parce qu'il y a une légère nuance, on va dire. Bon, voilà. Mais bon.
En plus, oui, il n'y a pas d'échelle du tout. Enfin, sur l'ordonnée, il n'y a rien. Enfin, moi, je vois rien.
Non, mais parce que ce sont des courbes isolées, en fait. Hein. Ça, c'est une courbe, ça, c'est une courbe. Et ça, c'est... Normalement, elles sont prises séparément. Ils les ont, de manière volontaire, mis pour montrer qu'effectivement, ils n'avaient pas de magnétisme. Parce que la question était de savoir si cette petite montée était du magnétisme ou pas.
Une autre question.
Oui.
Sur leur courbe, pardon, sur leur courbe, ils n'ont pas mis d'erreur, mais sur les mesures, c'est-à-dire des erreurs en verticale et en horizontale. Oui. Et en théorie, les instruments de mesure pour le champ magnétique doivent avoir une marge d'erreur. Donc, est-ce que ça ne rentre pas dans les marges d'erreur? Parce que c'est ça. S'il le faut, les deux courbes x10 rentrent dans la marge d'erreur.
Oui.
Ce que je veux dire, ce sont des courbes moyennes qui peuvent rentrer dans une marge d'erreur, plus ou moins, je ne sais pas quel champ en Tesla.
Le problème, c'est que là, dans cet article, et dans beaucoup d'articles de physique des matériaux, enfin, en tout cas dans ce laboratoire, il y a très peu de... Autant en astrophysique, il y a beaucoup de marge d'erreur, en pharmacologie, alors vous avez des et là, vraiment, vraiment pas beaucoup. Alors, je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit que c'était peut-être parce qu'effectivement, c'est tellement difficile de... Parce que pour faire une marge d'erreur, il faut quand même avoir un... Non, pas forcément un gros, mais enfin un panel, on va dire. Quand même. Et là, il y a vraiment des choses qui ont été faites qu'une fois.
Ils connaissent quand même la marge d'erreur de l'instrument qui permet de mesurer le champ.
Oui, ça, je le pense.
Là,
je pense
qu'il, par rapport à ça, c'est un petit peu gênant.
Oui, ça c'est, je suis d'accord.
En astrophysique, par exemple, peut avoir des marges d'erreur de 100%.
Ah oui, plus. 100%, oui. Alors là, on les voit. Oui.
Là, la marge d'erreur, à mon avis, s'il le faut, rentre dedans. S'il le faut, c'est les mêmes courbes. Enfin, ouais. Je sais pas, mais.
Enfin, moi, ça, pour moi, oui, de toute façon, c'est les mêmes courbes. Il n'y a pas de magnétisme. Mais bon.
Là, en cherchant un peu la petite bête, est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt que d'erreur, d'échec ? Et la nuance qu'on pourrait avoir par rapport à ces deux mots.
On peut parler d'échec et d'erreur. D'échec quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Genre, par exemple, là, typiquement, ils ne sont pas arrivés à faire cette monocouche tant espérée. Mais il peut y avoir des erreurs. C'est-à-dire que dans l'interprétation par exemple, d'une image, il peut y avoir, dans un premier temps, carrément des erreurs. On pense que c'est ça. On donne un nom même. On dit, voilà, c'est ça. On identifie un phénomène. Et puis finalement, au bout de 6 mois, on se rend compte que c'était... pas du tout ça, et que c'était tout à fait autre chose. Donc, c'est pas tout à fait... Il y a des échecs et des erreurs, à mon avis. Allez, on trouve tout ça mêlé dans ce type de laboratoire. Et des échecs, il y en a beaucoup. Hein. Il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas. Quoi. C'est ça qui fait rebondir. Tant que c'est pas maîtrisé, on essaye. Pourquoi il y a échec ? Alors, il y a échec, c'est lié parfois à certains dispositifs de préparation des échantillons qui sont extrêmement difficiles à maîtriser, les instruments. Et puis, il peut y avoir erreur aussi. Par exemple, là je n'ai pas d'image, mais en microscopie électronique à transmission, un autre microscope. Alors là, il y a beaucoup d'erreurs dans l'interprétation des images qui sont produites. Alors là, des erreurs. Je veux dire, on a l'image, et si la personne n'est pas habituée à interpréter des images avec ce type de microscope, il y a là carrément des erreurs de lecture, on va dire. Qu'on peut reprendre après, mais c'est des erreurs. Là, l'échantillon est là, il est fait correctement, mais c'est une erreur d'interprétation.
C'est un débat passionnant. Donc, merci beaucoup à tous. Certains restent demain. Merci beaucoup, Catherine. Merci infiniment. On se verra. C'est Mario Cotron et Patrick Matin qui vous accueilleront demain matin. Donc il y a deux ateliers, vous avez vu, hein, il y a un atelier qui est supprimé parce qu'il y a grève de train. Donc le programme, il est là, j'ai fait des photocopies. Donc demain soir, si vous êtes dans les parages, vous êtes invité à venir écouter la conférence de Patrick Matagne sur le développement durable. C'est Patrick qui sera aussi animateur d'un atelier sur l'évolution. Et puis je vous ai donné le papier dont vous êtes occupé. Voilà, je vais donner le papier concernant l'invitation d'Alfredo Penavega, donc ça se fera à l'Espace Mendès France. Et je vous invite fortement, je sais que vous êtes, vous avez 3 jours de stage, donc vous avez le droit de rester à Poitiers 3 jours, à venir écouter Robert Halleux, vraiment, parce que là, c'est aussi une leçon d'histoire des sciences. Donc c'est dans le programme que j'ai photocopié. Donc j'ai photocopié le programme de l'atelier et la conférence de Robert Halleux, qui est en général la conférence de clôture du stage, qu'on le fait tout le temps, est aussi indiqué sur le papier, et c'est à 14h ici, vendredi. Oui, demain matin, vous allez au CRDP. C'est au CRDP demain matin. Les ateliers sont au CRDP. Tout est écrit sur le papier. C'est rue Sainte-Catherine. Vous regarderez sur un plan. Vous pouvez prendre des plans en haut. Puis demain soir, si vous voulez, vous êtes invité à la conférence. 20h30 sur le développement durable. Et vendredi matin... ici, voilà, et vendredi matin c'est donc l'atelier Penavega si vous voulez venir, et vendredi après-midi c'est la conférence de clôture de votre de votre stage. Ah non, c'est absolument pas obligatoire. Ah non, non, absolument pas, non. C'est une invitation. Il y a deux ateliers. Voilà, c'est ça. On va vous arriver vers 9h. Ben non, 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 c'est pas.